Volume 5, Les œuvres de George Fox, Livre Doctrinosi, suite Le commencement de la dîme dans la loi et la fin de la dîme dans l'Évangile. La loi et le commandement du Seigneur concernant le paiement des dîmes, à qui elles devaient être payées, et comment elles devaient être affectées au sacerdoce lévitique dans l'Ancien Testament, et comment le Christ est venu mettre fin à ce sacerdoce, à cette loi et à ce commandement, par lesquels étaient perçues les dîmes et les offrandes, par G.F. Toutes les dîmes du pays, soit de la semence du pays, soit du fruit des arbres, appartiennent au Seigneur, elles sont consacrées au Seigneur. Et quant au dixième des troupeaux, ou du bétail, de tout ce qui passe sous la verge, le dixième sera consacré au Seigneur. Lévitique 27:30-32. Si j'ai pris vos frères les Lévites du milieu des enfants d'Israël, ils vous sont donnés en don de la part du Seigneur pour faire le service de la tente d'assignation. C'est pourquoi toi et tes fils avec toi, vous garderez votre sacerdoce pour tout ce qui concerne l'autel, et vous servirez à l'intérieur du voile. Je vous ai donné votre sacerdoce comme un service de don, et je t'ai donné la charge des offrandes élevées, et vous garderez la charge de l'autel et du sanctuaire, et vous garderez la charge du tabernacle pour l'assemblée et pour. Non 18:6-8, et les Lévites seront à moi, je suis le Seigneur. Non 3:45. Et voici, j'ai donné aux enfants de Lévi toutes les dîmes en Israël en héritage pour le service qu'ils accomplissent, le service de la tente d'assignation. Le Christ a annulé cette charge. Et les enfants d'Israël ne doivent pas non plus s'approcher de la tente d'assignation, de peur qu'ils ne portent leur péché et ne meurent. Mais les Lévites feront le service de la tente d'assignation, et ils porteront leur iniquité. Ce sera une ordonnance perpétuelle parmi vos générations, qu'au milieu des enfants d'Israël il n'ait pas d'héritage, c'est-à-dire les Lévites. Mais les dîmes des enfants d'Israël, qu'ils offrent en offrande élevée au Seigneur, je les ai données aux Lévites en héritage, car ils n'ont pas d'autre héritage parmi les enfants d'Israël. Et le Seigneur dit à Moïse, « Parle ainsi aux Lévites, quand vous prendrez les dîmes des enfants d'Israël, que je vous ai donné de pour votre héritage, vous en offrirez une offrande élevée pour le Seigneur, à savoir la dixième partie de la dîme, et cette offrande élevée vous sera comptée comme le grain de l'aire. Et ainsi, vous offrirez aussi une offrande élevée au Seigneur, de toutes vos dîmes que vous recevez des enfants d'Israël, et vous en donnerez l'offrande élevée du Seigneur à Aaron le prêtre. » Non 18:21-32. Le lieu que le Seigneur votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y mettre son nom, vous le rechercherez, et vous y viendrez, et vous y apporterez vos offrandes et vos sacrifices, vos dîmes et les offrandes élevées de vos mains. Et là vous mangerez devant le Seigneur votre Dieu, et vous vous réjouirez de tout ce à quoi vous aurez mis la main, vous et vos maisons, dont le Seigneur votre Dieu t'a béni. Car vous n'êtes pas encore venus au repos, mais lorsque vous passerez le Jourdain et que vous habiterez dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous donne en héritage, et qu'il vous donnera du repos de tous vos ennemis d'alentour, de sorte que vous demeuriez en sécurité. Alors il y aura un lieu que le Seigneur votre Dieu choisira pour y faire demeurer son nom, là vous apporterez vos offrandes, sacrifices, dîmes et les offrandes élevées de vos mains au Seigneur. Et vous vous réjouirez devant le Seigneur, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et le Lévite qui est dans vos portes, puisqu'il n'a ni part ni héritage avec vous ses frères. Le Seigneur est son héritage, selon ce que le Seigneur lui a promis, car le Seigneur a séparé la tribu de Lévi pour porter l'arche de l'Alliance du Seigneur, pour se tenir devant le Seigneur, pour le servir et pour bénir en son nom. 2:12-7:12-10:8-9 Et vous ne pourrez pas manger dans vos portes les dîmes de votre blé, ou de votre vin, ou de votre huile, ou le premier-né de votre gros bétail, ou de votre menu bétail. Mais vous les mangerez devant le Seigneur votre Dieu, dans le lieu que le Seigneur votre Dieu choisira, toi ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite qui est dans tes portes, et tu te réjouiras devant le Seigneur ton Dieu, en tout ce à quoi tu mets la main. 2:12-17:12 Et prends garde à toi-même de ne pas abandonner le Lévite. Et tu peux manger de la viande dans tes portes, ou ce que tu désires, seulement, les choses saintes que tu as et tes vœux, tu les prendras et tu iras au lieu que le Seigneur ton Dieu choisira, observe et écoute toutes ces paroles que je te commande. Et dans 2:14, tu prélèveras fidèlement la dîme de tout le produit de ta semence, année après année, et tu la mangeras devant le Seigneur ton Dieu, au lieu qu'il choisira pour y faire demeurer son nom, la dîme de ton blé, de ton vin, de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours le Seigneur ton Dieu. Et si le chemin est trop long pour toi, de sorte que tu ne puisses la porter, ou si le lieu est trop éloigné de toi, que le Seigneur ton Dieu choisira pour y mettre son nom, lorsque le Seigneur ton Dieu t'aura béni, alors tu la convertiras en argent, tu serras l'argent dans ta main, et tu iras au lieu que le Seigneur ton Dieu choisira. Et tu dépenseras cet argent pour tout ce que ton âme désire, pour des bœufs, ou pour des brebis, ou pour du vin, ou pour des boissons fortes, ou pour tout ce que ton âme désire, et tu le mangeras devant le Seigneur ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta maison. Et le Lévite qui est dans tes portes, tu ne l'abandonneras pas, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu apporteras toute la dîme de ton revenu, la même année, tu la déposeras dans tes portes. Et le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui sont dans tes portes viendront, mangeront et seront rassasiés, afin que le Seigneur ton Dieu te bénisse dans toutes les œuvres de tes mains que tu fais. 2:14-22 jusqu'à la fin. Et aussi dans 2:26, quand tu auras achevé de prélever toutes les dîmes du revenu, la troisième année, qui est l'année de la dîme, et que tu l'auras donnée au Lévite, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, afin qu'ils mangent dans tes portes et soient rassasiés, alors tu diras devant le Seigneur ton Dieu, « J'ai ôté de ma maison les choses consacrées, et je les ai aussi données au Lévite et à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tes commandements que tu m'as commandés. » Ici vous pouvez voir les lois et les commandements de Dieu concernant les dîmes, et à qui elles étaient destinées. 2:26-12-13. Et vous pouvez voir comment les dîmes devaient être apportées dans les chambres de la maison de Dieu à Jérusalem. Né 10:37-38, et dans 2 Chron 31:11, comment les chambres pour les dîmes se trouvaient dans la maison du Seigneur, qui était le lieu que le Seigneur avait choisi selon Moïse. Et dans Mal 3, c'était appelé un vol envers Dieu et envers toute la nation lorsqu'ils n'apportaient pas leurs dîmes dans le trésor, afin qu'il y eût de la nourriture dans sa maison. C'était ainsi faire tort à Lévi, à l'étranger, à la veuve, à l'orphelin en les privant de leurs droits, car les dîmes du pays appartenaient au Seigneur, et étaient pour Lévi, la veuve, l'étranger et l'orphelin. Et s'ils ne les apportaient pas, ils volaient Dieu dans ses dîmes et ses offrandes, et marchaient contrairement à la loi et au commandement de Dieu. C'est pourquoi dit-il, vous. Et l'apôtre a dit, « Maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi pour les faire. » Gal 3:10-27-26. Mais nul n'est justifié par les œuvres de la loi devant Dieu, car le juste vivra par la foi, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Gal 3:11. Et le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, ainsi ceux qui ne paient pas la dîme maintenant ne sont pas sous cette malédiction. Et l'apôtre a dit, nul n'est justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Et l'apôtre a dit, par les œuvres de la loi, aucune chair ne sera justifiée devant Dieu, ainsi vous n'êtes pas justifiés devant Dieu par la loi des dîmes et des offrandes, ni par la circoncision extérieure. Gal 2:16. Et le Christ a crié, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, vous payez la dîme de l'amende, de l'aïneth et du cumin, et vous avez négligé les choses plus importantes de la loi, la justice, la miséricorde et la foi, c'est cela qu'il fallait faire sans négliger le reste. » Matt 23:23-11:42. Et dans Gênèse 14:20, lorsque Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, il était prêtre du Dieu Très-Haut, et il bénit Abraham, et Abraham lui donna la dîme de tout ce qu'il avait pris du butin, comme vous pouvez aussi le voir en Hébreux 7:4. Abraham a-t-il jamais payé des dîmes à Melchisédek après ce moment? Ou a-t-il jamais payé à Melchisédek des dîmes auparavant, sur son revenu annuel personnel, sinon ici à partir du butin de la guerre? Et l'un des rois ou des juges a-t-il jamais payé par la suite le dixième du butin de ces guerres? Et Jacob fit un vœu, disant, « Si Dieu est avec moi et me garde dans le chemin où je vais, et me donne du pain à manger et un vêtement à mettre, si je reviens en paix dans la maison de mon père, alors le Seigneur sera mon Dieu, et cette pierre que j'ai dressée comme stèle sera la maison de Dieu, et de tout ce que tu me donneras, je te donnerai sûrement la dîme. » Or, où Jacob a-t-il jamais payé des dîmes, ou les enfants d'Israël en Égypte? Pas avant leur sortie d'Égypte et la réception de sa loi. Car ce n'était que la condition et le vœu libre de Jacob, non un commandement de Dieu, comme vous pouvez le voir en Gênèse 28:20-22. Et dans Hébreux 7, quand Abraham revint de la défaite des rois, Melchisédek, roi de Salem, prêtre du Dieu Très-Haut, alla à sa rencontre et le bénit. Abraham lui donna aussi la dîme de tous les butins, ce n'était donc pas du revenu de son patrimoine personnel, et ni d'autres rois ni des juges, comme je l'ai dit auparavant, ne suivirent cet exemple, donnant le dixième de leurs butins acquis à la guerre. Et Abraham n'en fit pas un commandement de Dieu imposé à sa propre famille pour payer ensuite des dîmes, soit de leur bien personnel, soit de leur guerre, à Melchisédek. Nous ne lisons pas que Jacob ou ses enfants aient payé des dîmes avant leur sortie d'Égypte, comme il a été dit selon la loi de Dieu, mais l'apôtre a dit pour ainsi dire, Lévi aussi qui reçoit les dîmes a payé des dîmes en Abraham car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek le rencontra, lui qui reçut les dîmes. Quant à Melchisédek, sa généalogie n'est pas comptée à partir d'eux. Ainsi l'apôtre va ici retrancher Lévi qui recevait les dîmes, et son sacerdoce et place cela sur Lévi, comme... Car l'apôtre a dit, « Certes, ceux des fils de Lévi qui reçoivent la charge du sacerdoce ont, selon la loi, un commandement de prélever les dîmes sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, bien qu'ils soient sortis des reins d'Abraham, et ainsi voici la loi et le commandement de prendre les dîmes de leurs frères, et non de ceux qui n'étaient pas leurs frères. » Et l'apôtre a dit, « Si la perfection était par le sacerdoce lévitique, car c'est sous lui que le peuple a reçu la loi, quel besoin y avait-il encore qu'un autre prêtre se lève, à savoir le Christ selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron, qui avait une loi et un commandement pour prendre les dîmes ?» Car l'apôtre a dit, « Le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi, car il y a abrogation du commandement précédent. Ainsi le sacerdoce est changé, et la loi par laquelle il fut établi est changée, et le commandement est abrogé, celui qui lui donnait ses dîmes, car il est évident que notre Seigneur Jésus-Christ est issu de Judas, tribu au sujet de laquelle Moïse ne dit rien concernant le sacerdoce, et le Christ est fait prêtre non selon l'ordre d'Aaron, et il est encore bien plus évident que. De plus, il a dit, la loi n'a rien amené à la perfection, mais l'introduction d'une meilleure espérance, à savoir le Christ l'a fait, par laquelle nous nous approchons de Dieu. Or le Christ, notre souverain sacrificateur, a été établi par serment, mais le sacerdoce sous la loi a été établi sans serment. Et ainsi le Christ accomplit le serment de Dieu et l'accomplit pleinement, et met ainsi fin aux serments et aux jurements, et les interdit. Car le Seigneur a juré, et ne se repentira pas. Tu es prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek, à savoir le Christ. Ainsi Jésus a été fait garant d'une alliance meilleure que l'Ancien Testament, parce que le Christ demeure éternellement, il possède un sacerdoce immuable, et le sacerdoce des Lévites est changé, ainsi que leurs lois et leurs commandements. L'apôtre n'entendait donc pas ici que les gens maintiennent le sacerdoce d'Aaron et les dîmes, mais il montre un changement de la loi par laquelle le sacerdoce fut institué, et un changement du sacerdoce et l'abrogation du commandement, et l'établissement du Christ et de son sacerdoce immuable. Et il montre l'inutilité et la faiblesse de la loi, du commandement et du premier sacerdoce, et comment il n'a rien amené à la perfection. Mais l'Évangile a conduit les gens au Christ, la meilleure espérance, qu'il ait à purifier comme il est pur. Or, toutes les dîmes, selon la loi de Dieu et son commandement, les enfants d'Israël devaient les payer aux Lévites, et les Lévites devaient offrir au Seigneur le dixième des offrandes élevées. Mais de Jésus-Christ, il est dit, « Voici, je viens pour faire ta volonté, ô Dieu, pour abolir la première notée-le afin d'établir la seconde, et c'est par cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes, une fois pour toutes leurs offrandes. » Ainsi il a mis fin à toutes les offrandes en offrant son propre corps, à savoir l'offrande des dîmes et toutes les autres offrandes, et à ses offrands, les prêtres, et ainsi il a ôté le premier sacerdoce, sa loi et son commandement, et ses dîmes, il a ôté son autel, son temple, son tabernacle, son sanctuaire, et toutes ses charges et services, et tous les prêtres lévitiques leurs charges et services, car le premier sacerdoce avait ses dîmes pour son servir au tabernacle, à l'autel, au sanctuaire, et pour garder la charge de toutes les choses saintes. Mais... Car le Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Ainsi ce seul sacrifice a mis fin tant au sacrifice qu'au sacrificateur. Et aussi les dîmes, leurs sacrifices, leurs offrandes et leur entretien au temps de la loi, qui ne rendaient personne parfait, car par une seule offrande le Christ a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés, notés, pour toujours. Hébreux 10. Et les lévites ou prêtres, qui prenaient les dîmes pour les services, se tenaient chaque jour pour offrir souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais le Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés pour toujours, s'est assis à la droite de Dieu, et par cette offrande il a mis fin aux premiers prêtres et à ses sacrifices quotidiens. Hébreux 9, 19. Et Moïse aspergea de sang le livre et le peuple. Mais combien plus le sang du Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il vos consciences des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant? Ainsi le Christ est le médiateur du Nouveau Testament, il rachète de la transgression de la première alliance, y met fin, et asperge les consciences et les cœurs de son peuple de son sang, et met fin au sang des sacrifices qui étaient offerts et répandus, et dont le peuple était aspergé. Et les Lévites avaient les dixièmes pour leur service, mais le sang du Christ, qui a été répandu, est le sang du Nouveau Testament, qui met fin au sang des taureaux et des boucs, et à l'Ancien Testament, dont ils étaient aspergés de sang, et par ce sang de Jésus, les cœurs et les consciences des gens sont aspergés de leurs œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. Et l'apôtre a dit, la première alliance avait des ordonnances concernant le service divin, et un sanctuaire terrestre fait de main d'homme, et il a dit, tant que le premier tabernacle subsistait, le lieu très saint n'était pas encore manifesté. Mais le Christ étant venu, est un souverain sacrificateur des biens à venir, par un tabernacle plus grand et plus parfait, non fait de main d'homme, c'est-à-dire ne relevant pas de cette construction de la loi d'Aaron et de Lévi de la première alliance du premier testament, avec le. Ainsi ce sanctuaire terrestre, ce temple terrestre, ces ordonnances charnelles, et la ville extérieure de Jérusalem, où ils apportaient leurs dîmes, et le prêtre qui avait les dîmes pour son service et n'avait pas d'autre héritage dans le pays, tout cela, le Christ est venu y mettre fin. Lui qui ne relève pas de cette construction faite de main d'homme, ni de l'ordre d'Aaron, mais d'un tabernacle plus parfait. Et ainsi la première alliance vieillit et se détruit, et est près de disparaître, et ainsi il est le médiateur du Nouveau Testament, et il met fin à l'ancien avec l'alliance, et à leurs ordonnances charnelles et leurs sanctuaires, leurs autels et les prêtres de Lévi et d'Aaron, et leur ordre et toutes leurs dîmes qui étaient leur entretien. Ainsi les dîmes ne sont plus aujourd'hui leur entretien venant de Dieu, car la loi par laquelle ils ont été établis est ôtée. Ainsi leurs charges et leurs services sont ôtés pour lesquels les dîmes leur étaient données, car la tribu de Lévi, qui n'avait pas de part dans le pays par la loi et le commandement de Dieu, n'avait que les dîmes pour son service. Or la loi, le service, le sacerdoce, les dîmes et les offrandes, l'alliance, l'ordre, le sanctuaire, le tabernacle et le témoignage ayant été ôtés, ainsi que le commandement qui leur donnait les dîmes et les offrandes, ils peuvent travailler et acheter une portion de terre, car il n'y a plus de dîmes pour eux, et l'apôtre a dit, « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Or, au temps de la loi et du commandement de Dieu concernant les dîmes, Lévi le prêtre ne devait pas du tout la manger, ni la mettre dans sa grange particulière, mais le peuple devait la porter à Jérusalem, qui était le lieu que le Seigneur avait choisi. Et là, le souverain sacrificateur devait en offrir ses offrandes élevées, son dixième, et le Lévite ne devait pas manger toutes les dîmes lui-même, mais les veuves, les orphelins, les étrangers et les personnes qui les lui avaient données, comme vous pouvez le voir en 2:12-18. Car ils ne devaient pas la manger dans leur porte, mais ils devaient manger au lieu que le Seigneur avait choisi, et se réjouir devant le Seigneur, leurs fils et leurs filles, leurs servantes et leurs serviteurs, et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui sont dans vos portes viendront, et mangeront et seront rassasiés, afin que le Seigneur votre Dieu vous bénisse. Ainsi tous là doivent manger des dîmes avec Lévi, qui n'avait ni part ni héritage avec les enfants d'Israël. Mais comme je l'ai dit, le Christ a mis fin au sacerdoce lévitique et l'a changé. Et ceux qui apportaient leurs dîmes au lieu que Dieu avait choisi étaient bénis, et ils les mangeaient là avec Lévi, et avec les fils et les filles, les serviteurs et les servantes, les étrangers, les orphelins et les veuves, comme dans 2:14. Et ceux qui ne le faisaient pas étaient maudits, car ceux qui ne le faisaient pas volaient Dieu et toute la nation, comme dans Mal 3, comme il a été dit auparavant. Et l'apôtre a dit, maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses écrites dans le livre de la loi pour les faire. Ainsi vous qui prenez des dîmes en prétendant la loi et un commandement dans l'Écriture, et ne les portez pas à Jérusalem. Et si cela avait été trop loin pour vous de les y porter, de les convertir en argent, le lieu que le Seigneur Dieu avait choisi, qui était le lieu de l'offrande, où le souverain sacrificateur devait avoir son offrande élevée prélevée sur elle, et où les veuves, les étrangers, les orphelins. Or, si vous n'avez pas persévéré dans toutes ces choses écrites dans le livre de la loi, et si vous ne les avez pas faites selon la loi, si vous ne l'avez pas fait, maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses écrites dans le livre de la loi pour les faire. Mais ceux qui sont de la foi sont bénis avec Abraham le fidèle, non comme Lévi, qui a payé des dîmes en Abraham, et qui eut ensuite une loi, car l'apôtre retranche la circoncision extérieure en Abraham, et ainsi la loi des dîmes pour Lévi en Abraham, car la promesse qu'Abraham serait héritier du monde n'a pas été faite à Abraham et à sa descendance par la loi, mais par la justice de la foi. Et la foi fut imputée à Abraham à justice lorsqu'il était dans l'incirconcision, et non dans la circoncision. Ici l'apôtre retranche non seulement le sacerdoce lévitique et sa loi, mais aussi la circoncision et sa loi. Rome 4. Et l'apôtre a dit, « Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. » Galates 3:16. Mais le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham vienne sur les nations par Jésus-Christ, afin que nous recevions la promesse de l'Esprit par la foi. Toutes ces choses extérieures dîmes, offrandes et autres ombres de la première alliance soutenues par des ordonnances charnelles, furent imposées aux Juifs jusqu'au temps de la réforme par le Christ. Ainsi leur loi est appelée un pédagogue, et elle a servi jusqu'à ce que la descendance vienne, et un enfant ne diffère en rien d'un serviteur, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps fixé par le Père. Notez-le, il n'était donc pas destiné à demeurer toujours dans cet état, de même nous, lorsque nous étions enfants, nous étions. Si tous les fidèles marchent sur les traces de cette foi de notre père Abraham astérisque qu'il avait avant d'être circoncis, car la promesse qu'il serait héritier du monde n'a pas été faite à Abraham ou à sa descendance par la loi, mais par la justice de la foi. Et ici l'apôtre retranche la loi de la circoncision, et aussi la loi par laquelle le prêtre Lévi fut établi et reçut ses dîmes et ses offrandes. Ainsi la justification est dans la foi du Christ, et non par les œuvres de la loi qui maintenaient la circoncision. Le Christ est entré par son propre sang dans le lieu saint qui n'est pas fait de main d'homme, comme le faisait le souverain sacrificateur des Lévites. Ceci n'était que des figures du vrai, mais le Christ, la substance, est entré dans le ciel même, ayant obtenu pour nous une rédemption éternelle, et paraissant maintenant pour nous devant la face de Dieu. C'est pourquoi il peut sauver parfaitement ceux qui viennent à Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur, car un tel souverain sacrificateur convenait à nous, croyants. Hébreux 7:25-28. Or des choses qui ont été dites, voici le résumé, nous avons un tel souverain sacrificateur, à savoir le Christ, qui a mis fin au sacerdoce d'Aaron, et à ses dîmes, sa loi et ses offrandes, et qui est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux. Et il est ministre du sanctuaire et du vrai tabernacle que le Seigneur a dressé, et non l'homme. Et ainsi il a obtenu un ministère plus excellent que celui de Moïse et de Lévi, d'autant plus qu'il est le médiateur d'une alliance meilleure que la première, établie sur de meilleures promesses, gloire à Dieu pour toujours. Abraham est le père de notre foi. Mais Abraham ne s'est pas contenté de croire en Dieu, sa foi était une foi d'obéissance. Le Seigneur dit à Abraham, « Parce que tu as obéi à ma voix, toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. » Gênesis 26, 5. Remarquez, il n'a pas été béni parce qu'il croyait au seul vrai Dieu, mais parce qu'il a obéi à la voix de Dieu. De même qu'Abraham a dû être circoncis physiquement, nous devons avoir le cœur circoncis pour être agréable à Dieu. Comme Abraham a exercé sa foi en quittant sa maison pour un nouveau pays, nous devons perdre notre vie charnelle et renoncer au monde pour entrer dans le royaume de Dieu. Comme Abraham a exercé sa foi en obéissant à la voix de Dieu, prêt à sacrifier Isaac, nous aussi nous devons obéir à la voix du Seigneur au-dedans, prêts à abandonner tout ce que le Seigneur nous demande. La preuve de la foi d'Abraham était son obéissance. La preuve de la foi d'un chrétien est l'obéissance de la croix qui produit le fruit de l'Esprit. Et puisque vous alléguez ce que le Christ a dit aux pharisiens dans Luc 11, 42, à savoir « Malheur à vous pharisiens car vous payez la dîme de la mène et de la rue, et de toutes sortes d'herbes, et vous passez par-dessus la justice et l'amour de Dieu », c'est cela qu'il fallait faire sans négliger le reste, à quoi je réponds. Ces choses étaient avant que le Christ ne fût offert, et la dîme des dîmes était une offrande élevée. Et le Christ leur dit, « Allez vous montrer au prêtre pour votre purification, car il n'était pas venu pour abolir. » Furent abolis. Ceux qui prêchaient l'Évangile disaient que le sacerdoce lévitique avait été changé, et que la loi avait été changée, par laquelle il avait été établi, et que le commandement qui lui donnait ses dîmes pour ses services et ses offrandes avait été abrogé, et le Christ était prêché, et l'on établissait le sacerdoce immuable. Ainsi le Christ, le prêtre, en s'offrant lui-même, a mis fin au premier sacerdoce et à ses offrandes. Puis le Christ dit à ses apôtres, ministres et messagers, « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, ainsi les gens peuvent garder pour eux la dîme de la mène, la rue, et les autres herbes et choses, car le Christ a ôté la loi qui les leur donnait. » L'apôtre devait aller sans sac ni besace, c'est pourquoi il ne devait pas prendre la mène et les herbes des gens, comme le sacerdoce lévitique le faisait par la loi. Le Christ a changé cette loi et celle de Lévi, et a abattu sa charge. Ainsi Lévi n'a aucun pouvoir de les prendre aux gens, et ainsi les gens peuvent les garder pour eux-mêmes, car là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression à ne pas les payer. Le Christ demeure un prêtre immuable pour toujours, qui, par l'offrande de lui-même, a mis fin à toutes leurs offrandes, et tous doivent venir à Dieu par lui, qui a été consacré comme un chemin nouveau et vivant. Hébreux 19:10-20. Ainsi le Christ a mis fin à l'ancien sacerdoce de Lévi, avec ses anciens gages, ses anciennes dîmes et offrandes, ses anciens autels, son ancien temple, ses anciennes ordonnances charnelles, ses anciennes offrandes, ses anciens lavages, l'ancien tabernacle fait de main d'homme, et son ancien testament aspergé du sang des taureaux et des boucs, son ancienne alliance, l'ancien sanctuaire terrestre, et les anciennes d'ombre et sacrifices. Le Christ, dis-je, a mis fin à toutes ces choses par l'unique offrande et le sacrifice de lui-même une fois pour toutes, et s'est assis à la droite de Dieu au-dessus d'elles toutes et sur elles toutes. Nul ne vient à Dieu sinon par lui et par son moyen, et le Christ est apparu pour abolir le péché par le sacrifice de lui-même. Après que le Christ eut offert un sacrifice pour les péchés, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Ainsi il a mis fin au sacerdoce lévitique qui offrait pour ses propres péchés, puis pour les péchés du peuple. Ainsi, je le dis, le Christ a mis fin à leur œuvre et à leur service, de même il a mis fin aux dîmes qui étaient leur salaire. Et la foi de chacun doit demeurer en Christ, l'auteur de cette foi, et vivre par elle et marcher par elle, s'ils sont justifiés et entrent dans l'héritage avec Abraham le fidèle. Les ministres d'Dieu vous disent que la loi est morte, que tous vos péchés passés, présents et futurs sont pardonnés parce que vous croyez en Jésus. Ils excusent le péché. Et ensuite ils vous disent que vous devez payer la dîme. Voyez-vous comme ils ont tout inversé. Les dîmes sont mortes, mais la loi morale ne l'est pas. Ils disent que la loi morale est morte, mais que les dîmes sont toujours exigées. Les parties de la loi qui sont mortes sont les ordonnances, les offrandes, les sacrifices, les lavages, les cérémonies, les rituels, ce qui inclut les dîmes. Mais ces sépulcres blanchis, qui prétendent être de justes représentants du Christ, prennent votre argent et excusent le péché. La chrétienté est la religion de la bête, la religion de Satan, exactement l'opposé de ce qu'elle devrait être. Et après que le Christ fut ressuscité, il dit à ses disciples, Luc 24, « Lorsque j'étais encore avec vous, je vous ai dit qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ainsi la loi et les prophètes sont accomplis en Christ, et il en est la fin, lui qui est le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'amen. » George Fox, le premier jour du 7 mois, 1676, un post-scriptum. À la tribu de Lévi, Moïse ne donna aucun héritage. Le Seigneur Dieu d'Israël était leur héritage, comme il le leur avait dit en Nom 18, 20-21. Et voici, j'ai donné aux enfants de Lévi toutes les dîmes en Israël en héritage pour leur service, à savoir le service de la tente d'assignation. Ainsi les 11 tribus eurent la terre par le sort, comme dans Josué 13-14. Ainsi la loi a servi, et les prêtres accomplissaient leur service autour du tabernacle, jusqu'à ce que le Christ vienne et soit offert. Car lorsque la plénitude du temps fut venue, Dieu envoya son Fils, né d'une femme et né sous la loi, pour racheter ce qui était sous la loi, afin qu'il reçoive l'adoption, ce dont beaucoup témoignent aujourd'hui. Et ainsi le Christ a mis fin au sacerdoce lévitique et à son service, et il a ôté le premier sacerdoce afin d'établir le second, celui qui est devenu plus élevé que les cieux, qui n'est pas entré dans le sanctuaire terrestre ni dans le tabernacle, mais dans le lieu saint par son propre sang. Et il a mis fin à la première alliance, et il a rendu la première ancienne, et elle était prête à disparaître, au jour des apôtres, Hébreux 8. Ainsi le Christ Jésus, le prêtre céleste, a déchargé Lévi de ses services à l'autel, au tabernacle et au temple, ainsi que de son arche extérieure, et de toutes ses offrandes et de tous ses sacrifices, et de ses offrandes élevées de ses dîmes, qu'il devait agiter d'un côté à l'autre, à aller à l'ouest, au nord et au sud, ce qui était une figure de l'offrande de Christ s'offrant lui-même, une fois pour tout, à la place de toutes leurs offrandes. Ainsi Christ l'ayant déchargé de ses fonctions, et ayant ôté son temple, son autel, son tabernacle, son sanctuaire, le sang des taureaux et des boucs, et les dîmes, le salaire et la part du prêtre pour son service, et ses offrandes dont il devait se nourrir, lui qui n'avait ni lot ni héritage dans le pays. À présent, il peut se prendre une plantation, ou s'acheter une terre, car Christ a ôté ses offrandes et sa loi, et le commandement qui lui donnait ses dîmes, car il ne doit plus s'attendre à recevoir de dîmes. Ainsi Dieu n'a désormais plus d'ouvrage pour lui dans des tabernacles extérieurs, ni pour offrir des sacrifices extérieurs, car il n'a ni loi ni pouvoir de Dieu pour percevoir un salaire, à savoir des dîmes, pour de tels services. Car Christ s'est offert lui-même une fois pour toutes à la place de toutes leurs offrandes, et il est prêtre, non selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Ainsi Lévi ne devait avoir d'autre part que les dîmes d'Israël. Or Christ a mis fin à ce sacerdoce lévitique et à ses dîmes, pour son service qu'il exerçait en vertu de la loi, jusqu'à ce que vint la semence Christ, lequel dans la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils. Ce fut le temps de la réforme hors de ces choses, et un temps pour ôter le premier, afin d'établir le second, le prêtre éternel et l'alliance éternelle. Et il a ôté la circoncision dans la chair, et il a établi la circoncision dans l'esprit. Ainsi, si Lévi devait maintenant plaider pour les dîmes d'Israël, il usurperait une autorité, car il n'a ni loi ni commandement de Dieu pour agir ainsi. Et Christ est mort pour tous et a éclairé tous les hommes, afin que tous puissent croire en la lumière et devenir enfants de la lumière. Et son évangile de salut est prêché à tous les hommes, et à toute créature sous le ciel, et la grâce de Dieu est apparue à tous les hommes, laquelle est le véritable maître du chrétien. Ainsi tous les croyants dans la lumière sont les enfants de la lumière, et sont greffés en Christ qui est mort pour eux, et ils mangent la chair et boivent le sang de l'homme céleste, et ainsi se nourrissent de Christ Jésus leur sacrifice. Ainsi tous ceux qui sont circoncis de cœur, hommes et femmes, se nourrissent du sacrifice, et ils sont le sacerdoce royal, offrant des sacrifices spirituels. Et Dieu a fait de nous à savoir la véritable Église des rois et des prêtres, et il nous a rachetés de la terre, afin de régner sur le diable et sur la terre, et ainsi d'offrir des sacrifices spirituels. Et ces prêtres que Dieu a faits n'offrent aucun sacrifice terrestre. Par conséquent, ils n'auront pas de dîme terrestre, car ils voient le sacerdoce lévitique, qui les percevait, ôter lequel était le premier. Et ils voient Christ le second établi prêtre pour toujours, fait plus haut que les cieux, qui est sur toute chose d'éternité en éternité, le premier et le dernier. George Fox, l'homme spirituel, Christ Jésus, la semence bénie, lumière de vie, purificateur de la conscience, guérisseur des nations et restaurateur de l'humanité. Comment toutes les nations sont bénies dans la semence, Christ Jésus, qui meurtrit la tête du serpent et sa semence qui a apporté la malédiction. Et plus avant, comment tous les hommes et femmes en Adam, dans la transgression, ont l'esprit obscur, et comment Christ, l'homme spirituel, éclaire leurs esprits, leurs chandelles, et comment aucune nourriture qui entre dans le ventre ne souille l'homme, et comment Christ est le purificateur de l'âme, de la conscience, du cœur et de l'esprit, de toutes ces choses mauvaises qui sont entrées dans l'homme et la femme. Par G.F., le Seigneur dit à Abraham, « Parce que tu as obéi à ma voix, toutes les nations de la terre seront bénies dans ta semence. » Gênesis 26, 5. Or c'était là la promesse de Dieu à Abraham, duquel Christ est venu selon la chair. Ainsi la promesse n'était pas faite à des semences comme à plusieurs, mais à une seule semence qui est Christ, cette semence qui meurtrit la tête du serpent. Ainsi tous les peuples et toutes les nations doivent être dans cette semence, comme ils ont été dans la semence du serpent, qui a apporté la malédiction, le malheur, la misère et les ténèbres sur l'humanité, s'ils veulent avoir la bénédiction et la promesse. Car comme l'apôtre l'a dit, tous ceux qui ont reçu Christ, qui était la semence, doivent marcher en lui. Car Abraham avait obéi à Dieu, d'abord en quittant la maison de son père et son pays natal, ses voies, ses religions et ses cultes d'idolâtrie. Il obéit à Dieu en cela, en offrant son fils unique, et en bien d'autres choses selon ce que Dieu lui commandait, comme vous pouvez le voir dans la Genèse. Et Dieu lui dit, « Marche devant moi, et sois parfait, ainsi toutes les nations de peuples doivent abandonner tout leur pays d'origine, leur religion et les voies qu'ils se sont faites, et leurs idolâtries, et venir dans la semence avant de pouvoir être parfaits, car le cri est parmi eux, et l'a été, il n'y a point de perfection ici de ce côté de la tombe. Mais moi je dis non, la perfection est dans la semence qui a conduit Abraham à obéir, à laquelle la promesse est faite, en laquelle toutes les nations sont bénies, et en qui se trouve la perfection. Ainsi toutes les nations doivent marcher dans cette semence devant Dieu, si elles veulent être parfaites et bénies, semence qui meurtrit la tête du diable, qui a rendu l'homme et la femme imparfaits. Dans cette semence, tous connaissent leur élection avant la fondation du monde et leur fondement. Et c'est cette semence dont tous les prophètes ont rendu témoignage, et que l'apôtre a prêché. Christ Jésus. Et maintenant, si tout le monde et la chrétienté ont toutes les paroles issues de la semence en Abraham, les prophètes et David, et tous les apôtres, mais n'ont pas la semence, ils n'ont que la peau de mouton, l'extérieur, la laine, et se nourrissent des paroles. Mais Christ a dit, « Si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, vous n'avez point la vie en vous, car la laine n'est que l'extérieur et le vêtement de la brebis, ce n'est pas chair et sang. » Et c'est pourquoi Christ a dit, « Si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, vous n'avez point la vie en vous, et sa chair et son sang ne sont pas la laine, l'extérieur, le vêtement de mouton. » Ainsi ils peuvent avoir toutes les paroles de Christ, et des prophètes et des apôtres, et pourtant se nourrir de poussière comme le serpent, avoir le vêtement de mouton, mais n'avoir point de vie en eux, à moins qu'ils ne mangent la chair de Christ et ne boivent son sang, lui qui est descendu du ciel. Car comme Christ l'a dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Il existe un vieux proverbe oriental, ne confondez pas le doigt avec ce qu'il montre. Ainsi Christ n'est pas les écrits, mais la chose dont les écrits rendent témoignage, et la chair et le sang ne sont ni la laine ni un vêtement. Or tous les peuples sont dans les ténèbres, comme ils sont en Adam dans la transgression, et mort quant à cette image, cette justice et cette sainteté dans lesquelles il a été créé. Et David a dit, « Le Seigneur a éclairé ma chandelle, et l'Esprit de l'homme est appelé la chandelle du Seigneur, et tant que l'homme est dans son état naturel, il ne connaît pas les choses de Dieu, bien que l'homme naturel, avec son esprit naturel, puisse connaître les choses qui sont naturelles en elles-mêmes, mais il ne peut connaître les choses de Dieu, jusqu'à ce que le Seigneur éclaire sa chandelle. » Car de même que des hommes et des femmes, la nuit, ne peuvent voir ce qui est dans leur maison sans une chandelle qu'ils allument un feu naturel, qui donne de la lumière à l'œil naturel, ainsi l'esprit de l'homme est allumé par Dieu et par la lumière et le feu divin de Christ, par lesquels ils voient, avec l'œil céleste, ce qui est dans leur maison et dans leurs parties intérieures. Car toute la maisonnée d'Adam dans la transgression est dans les ténèbres, tant dans l'esprit que dans l'âme et la pensée. Et ceux qui suivent leur propre esprit ne voient rien. Or tout homme venant au monde est éclairé par Christ, qui est appelé la lumière du monde, et la lumière qui éclaire tout homme, et l'esprit, l'âme et la pensée de l'homme étant tournée vers cette lumière divine de l'homme spirituel et céleste éclaire son esprit, sa chandelle. Alors par cette lumière divine et céleste, qui a éclairé son esprit, sa pensée et son âme, il trouve la perle dans son propre champ, puis il demeure près du Seigneur et de son conseil, et il s'en va vendre tout ce qu'il a amassé par son propre esprit dans les ténèbres, et en Adam dans la chute, afin d'acheter ce champ et la perle qui s'y trouve, et la chandelle étant allumée, il voit le levain qui a reposé en lui, pour le lever en une nouvelle pâte vivante, et il voit la semence du royaume au-dedans. Car dans la parabole de la femme qui avait perdu la pièce d'argent, après avoir allumé sa chandelle par la lumière divine de Christ, son esprit, sa pensée et son âme étant tournées vers la lumière divine de Christ, elle balaya sa propre maison avec le balai de Dieu, sa puissance, et jeta dehors les immondices qui étaient entrés par la transgression. Et ainsi par cette lumière divine, elle trouva l'argent divin ou trésor dans sa propre maison. Ainsi l'homme naturel, avec son esprit naturel, connaît les choses de l'homme naturel et ne connaît pas les choses de Dieu. Mais son esprit étant éclairé, lequel est la chandelle du Seigneur par cette lumière divine, cela lui donne la connaissance des choses divines et célestes, et de son royaume, et du monde qui n'a point de fin. Ainsi il n'est plus question de dire « Voici ici » ou « Voici là le royaume », comme le font ceux qui haïssent sa lumière. Car ceux qui haïssent la lumière divine de Christ haïssent ceux qui devraient allumer leur chandelle, leur esprit. Et c'est pourquoi, comme il est dit, combien de fois la chandelle des méchants s'éteint-elle, car lorsqu'ils se détournent de la lumière et désobéissent à la vérité, comme Adam et les Juifs, et ce qu'on appelle chrétiens, ils suivent leur propre esprit, leur chandelle étant éteinte, ils ne voient rien, alors l'un crie « voici ici » et l'autre crie « voici là » dans les ténèbres lundi, « voici ici Christ le chemin » et l'autre crie « là est le chemin », mais tous sont dans l'obscurité. Mais nul ne voit Christ, ni ne voit le chemin, ni ne voit la parole, sinon ceux dont la pensée, l'esprit et l'âme sont tournés vers la lumière divine de Christ, qui éclaire leur esprit, leur chandelle. Alors ils voient Christ, le chemin, la vérité et la vie, et la lumière leur donne la connaissance qui resplendit dans leur cœur, elle qui a éclairé leur esprit. Or la désobéissance, et aimer les ténèbres plutôt que la lumière, éteint cette chandelle, ainsi la chandelle des méchants est souvent éteinte. Mais ceux qui aiment la lumière qui éclaire leur âme, leur pensée et leur esprit, elle leur donne la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ Jésus, de sorte qu'ils en viennent à voir Christ, qui est le mystère, et le suivent, et deviennent ses disciples. Or, au jour de Christ, un pharisien l'invita à dîner, Matthieu et Marc 7, et le pharisien s'étonnait que les disciples de Christ mangent avec des mains non lavées. Mais Christ dit, « Insensé, celui qui a fait ce qui est au dehors n'a-t-il pas fait aussi ce qui est au dedans? Donnez plutôt en aumône de tout ce que vous avez. » Luc 11, 40-41, « Et voici, toutes choses vous sont pures. » Et dans Marc 7, 18-20, Christ dit au peuple cette parabole, « Il n'y a rien du dehors de l'homme qui, entrant en lui, puisse le souiller, mais ce qui sort de lui, c'est cela qui souille l'homme. » Et encore, Christ dit à ses disciples, « Êtes-vous donc aussi sans intelligence? Ne savez-vous pas que tout ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans le ventre, et est évacué par la purge, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui souille l'homme, car du dedans du cœur des hommes sortent les mauvaises pensées, adultère, fornication, meurtre, vol, cupidité, méchanceté, tromperie, dérèglement, mauvais œil, médisance, blasphème, orgueil, folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme, lesquelles sont ces choses mauvaises? Ces péchés que Christ purifie. Et Jean-Baptiste a dit, « Moi, je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi, Christ, est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier ses souliers ou de les porter. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, il a son van à la main, et il nettoiera parfaitement son air, et amassera son frôme dans son grenier, et brûlera la paille d'un feu inextinguible. » Ainsi Christ est celui qui purifie le cœur, la pensée, l'âme, l'esprit et la conscience, et le corps intérieurement, car Christ est plus puissant que Jean, dans sa conception, sa naissance, sa puissance et ses miracles. La purge évacue tous les aliments qui entrent dans la bouche, puis dans l'estomac, puis dans les lieux d'aisance. Ainsi, quoi que ce soit qui entre dans la bouche ne souille pas l'homme, car celui qui est saint et pur a fait ce qui est au dehors, et a fait ce qui est au dedans, et tout ce qu'il a fait était bon et béni. Qui pourra soutenir le jour de sa venue, et qui subsistera quand il paraîtra, car il est comme le feu du fondeur, et comme la potasse des foulons, et il s'assiera comme un fondeur et un purificateur, et il purifiera les fils de Lévi, et les épurera remarqués, épurera comme l'or et l'argent, afin qu'ils offrent une offrande en justice. Mal 3.3. Dans Hébreux 9, 14, Christ, par son sang, purifie vos consciences des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant, ainsi il est celui qui purifie le cœur et la conscience par son sang. Dans Hébreux 3, lorsque Christ, par lui-même, eut purifié nos péchés, il s'assit à la droite de Dieu, ainsi c'est Christ qui ôte nos péchés, lesquels sont au-dedans. Tout sarment, dit Christ, il le purge, afin qu'il porte plus de fruits. Jean 15, 2. Ainsi Christ est celui qui purifie la conscience et le cœur, l'âme et l'esprit par son sang, et il purge nos péchés. Et ainsi ceux qui regardent à Christ ne plaideront pas pour un purgatoire qui les purgerait après la mort, ni ne plaideront pour un corps de péché et de mort jusqu'à la tombe. Et Christ est celui qui purge les sarments qui sont greffés en lui, afin qu'il porte plus de fruits. Or il y a ceux qui purgent tous les aliments, par quoi la créature n'en est point souillée, de sorte que la créature n'est pas souillée par les aliments, car il les purge hardiment. Or ce qui sort de l'homme le souille, comme il a été dit plus haut, et toutes ces choses mauvaises sont entrées dans l'homme par la chute et la transgression, car le mal n'était pas en lui au commencement, avant la chute, lorsque Dieu le fit à son image. Ainsi le mal entra dans l'homme et la femme par la transgression, ce qui les a souillés. Et maintenant, pour que toutes ces choses mauvaises soient purgées hors de l'homme, celles qui sont entrées en lui par la transgression et ont souillé son cœur, son âme, sa pensée, sa conscience et son esprit, ce qui les purifie, c'est le sang de Christ, qui, par son sang et son baptême de feu, a purgé nos péchés et nous sanctifie. Ainsi ceux qui sont sans intelligence, à la manière des pharisiens, ne savent pas ce qui purge tous les aliments, et ne connaissent pas non plus Christ. Ils sont sans l'intelligence de celui qui purge par son sang la pensée, le cœur, l'âme, l'esprit et la conscience, tout cela par son sang, par lequel ils en viennent à servir le Dieu vivant. Et tous ceux qui plaident pour un purgatoire, lorsqu'ils sont morts, afin d'y être purgés, et ceux qui plaident pour un corps de mort et de péché jusqu'à la tombe, et qui interdisent certains aliments comme s'ils devaient les souiller, lesquels entrent dans l'estomac et vont ensuite au lieu d'aisance, ces gens-là, le purificateur qui purge tous les aliments, sont aussi aveugles que les juifs, les principaux prêtres et les pharisiens, et sont aussi ignorants de celui qui purge la conscience, à savoir Christ Jésus, la semence en qui toutes les nations sont bénies, et en la. George Fox, le 7 mois, 1676, la parabole de Christ du riche et de Lazare, pour que tous ceux qu'on appelle chrétiens, et les autres, la considèrent. Tous les peuples dans la chrétienté, et ailleurs, considérez durant votre vie la parabole de Christ concernant l'homme riche et Lazare le mendiant. Car Christ a dit, il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de fin lin, et qui faisait chaque jour magnifique chère. Et il y avait un pauvre nommé Lazare, couché à sa porte, à savoir, à la porte de l'homme riche, couvert d'ulcères, et il désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, à savoir, le pauvre Lazare. De plus, les chiens venaient lécher les ulcères du pauvre. Or il arriva que le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et fut enseveli, et dans l'enfer, étant dans les tourments, il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et le riche cria et dit, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, à savoir le mendiant, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et rafraîchisse ma langue, à savoir celle du riche, car je suis tourmenté dans cette flamme. » Mais Abraham dit au riche, « Mon fils, souviens-toi que tu as reçu durant ta vie tes biens et tes plaisirs, et que pareillement Lazare le mendiant a reçu les maux, mais maintenant il est consolé, et toi tu es tourmenté. Et outre tout cela, entre nous et vous il y a un grand abîme établi entre Abraham et le mendiant, et le riche en enfer, de sorte que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent, et que ceux qui voudraient venir de là vers nous ne le peuvent pas, à savoir le riche qui a vécu dans les plaisirs sur la terre. » Alors il dit, lui, le riche en enfer, « Je te prie donc, Père, de l'envoyer dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, afin qu'ils leur rendent témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de tourment. » Et Abraham dit au riche en enfer, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent, c'est-à-dire pendant qu'ils sont sur la terre. » Et le riche en enfer dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un allait vers eux d'entre les morts, il se repentirait. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand bien même quelqu'un ressusciterait des morts. » Luc 16, 19-31. Il en est de même aujourd'hui de ceux qui ne veulent pas écouter Christ et son évangile, et s'ils n'écoutent pas Christ et son évangile, ils n'écouteront pas celui qui viendrait d'entre les morts. Ainsi les chrétiens de profession sans possession ressemblent aux Juifs, qui ne voulaient écouter ni Moïse ni les prophètes, ni celui qui est venu d'entre les morts. Mais les Juifs cherchèrent à faire mourir Lazare que Christ avait ressuscité d'entre les morts, parce qu'à cause de Lazare beaucoup de gens s'étaient tournés vers Christ et avaient cru en lui, parce que Christ l'avait ressuscité d'entre les morts. Ils étaient aussi furieux contre Christ et ses miracles qu'ils le sont maintenant contre sa lumière, qui est sa vie dans la parole. Maintenant vous tous, grands et riches hommes sur la terre, qui faites chaque jour magnifique chère, de quelque sorte que vous soyez juifs, païens, turcs ou chrétiens, considérez la parabole de Christ sur l'homme riche, qui n'eut point compassion du pauvre Lazare, et ni apparenté du riche ni lui-même ne tint compte de la loi ni des prophètes, et il ne tiendrait compte de personne, quand bien même il viendrait d'entre les morts, pour leur dire la misère où se trouvait cet homme riche lorsqu'il était en enfer. Maintenant, vous qui êtes appelés chrétiens, et d'autres qui faites chaque jour magnifique chère, vous qui êtes les hommes riches, avez-vous égard au pauvre Lazare? Avez-vous égard à la vie et à la pratique de la loi et des prophètes? Avez-vous égard à la vie du christianisme, à la vie et à la pratique selon ce que Christ et les apôtres commandent? Mais n'avez-vous pas méprisé les messagers, les prophètes et les serviteurs de Dieu, ses fils et ses filles, et ses servantes, qui ont été mus par le Seigneur Dieu pour vous avertir, durant votre vie, du tourment et de la misère du feu de l'enfer, où tomba cet homme riche au cœur dur lorsqu'il fut mort? Et ceux qui vous ont exhortés, vous qui êtes vivants, et qui auraient voulu vous tourner vers le Seigneur, vous les avez emprisonnés, persécutés et bannis. Et ne pensez-vous pas que votre fin sera comme celle de cet homme riche, quand il mourut et alla dans le feu de l'enfer, et le pauvre Lazare, envers qui vous n'avez pas eu compassion, est allé au ciel? Et ne pensez-vous pas que tous ces pauvres Lazares, que vous avez persécutés et que vous persécutez, ne seront pas, à leur mort, portés dans le sein d'Abraham? Quand vous serez tourmentés en enfer, ne crierez-vous pas, comme ce riche en enfer, à Abraham, pour qu'il envoie l'un de ces pauvres Lazares tremper le bout de son doigt dans l'eau afin de rafraîchir vos langues, brûlées par les flammes du feu de l'enfer? Mais alors considérez quelle sera la réponse d'Abraham pour vous, vous qui avez reçu les bonnes choses durant votre vie et eu vos plaisirs, tandis que les pauvres Lazares eurent les mauvaises choses. Mais Abraham vous dit, bien qu'il vous appelle fils, il y a un grand abîme entre vous et lui, et il ne peut venir à vous, et vous ne pouvez venir à lui. Et Abraham vous dira, souviens-toi comment, durant ta vie, tu faisais chaque jour magnifique chère et recevais les bonnes choses, et comment pareillement les pauvres Lazare recevaient de toi les mauvaises choses, sans aucun réconfort parmi vous. Mais maintenant, les pauvres Lazare sont consolés dans le sein d'Abraham après leur mort, et toi, après ta mort, tu es tourmenté dans le feu de l'enfer, malgré tous tes manteaux de pourpre, tes somptueux vêtements et tes festins quotidiens. C'est pourquoi, vous tous, riches hommes au cœur dur, soyez avertis, et prenez garde à la loi et aux prophètes, à Christ et aux apôtres, et marchez comme ils l'ont commandé. Prenez garde au pauvre Lazare, et ne vous contentez pas de parler des pauvres, si vous voulez échapper au feu de l'enfer. Il faut y prendre garde durant votre vie, sinon, après votre mort, vous devrez aller dans le feu de l'enfer et y être tourmenté, comme l'homme riche l'était après sa mort, et il ne pouvait sortir vers Abraham, ni Abraham venir vers lui. Et ne pensez-vous pas que cet homme riche était un joyeux compagnon tant qu'il était sur la terre, avec ses chiens, ses festins somptueux, et ses vêtements de pourpre et de fin lin? Or cette parabole, Christ l'adressa aux pharisiens cupides, qui se justifiaient eux-mêmes et se moquaient de Christ. C'est pourquoi considérez, vous tous, riches hommes appelés chrétiens, et les autres, qui faites chaque jour magnifique chair, et qui êtes vêtus de pourpre et de fin lin, vous qui tournez en dérision la vie qui est en Christ, laquelle éclaire tout homme venant au monde. Avez-vous égard au pauvre Lazare, au pauvre mendiant couché à vos portes, couvert d'ulcères? Et considérez-vous, où vous devrez aller quand vous mourrez? Pensez-vous à cet homme riche, là où il est, et à l'endroit où se trouve le pauvre Lazare. Vous qui avez reçu les bonnes choses durant votre vie, souvenez-vous maintenant, tant que vous êtes vivant, et ne mangez ni buvez sans la crainte de Dieu, au point de vous rendre dissolu, de peur que vous ne soyez enorgueilli et n'ayez aucun égard pour les pauvres, et que vous ne regardiez avec hauteur et mépris vos semblables qui sont dans la misère, de peur que le temps ne vienne où vous entriez dans le tourment avec l'homme riche, tandis que les pauvres sont consolés dans le sein d'Abraham. Car vous entendez ce que Christ a dit dans sa parabole, et ce qu'Abraham a dit. Abraham dit aux riches tourmentés en enfer qu'un grand abîme est établi entre le riche en enfer et Lazare et Abraham, de sorte que ceux qui voudraient passer d'Abraham vers le riche en enfer ne le peuvent, et que ceux qui voudraient passer de l'enfer vers Abraham ne le peuvent pas. Et ainsi cela manifeste que lorsque les méchants meurent, ils vont en enfer, il n'y a donc point de purgatoire, ni de lieu intermédiaire, comme certains l'imaginent, et ceux qui sont en enfer ne peuvent passer vers Abraham, ni Abraham vers eux, de sorte qu'aucune prière ne les fera sortir du feu de l'enfer. C'est pourquoi, considérez ceci, vous qui faites chaque jour magnifique chair et êtes vêtus de pourpre et de fin lin, et qui n'avez point égard aux pauvres, de peur que le jour de votre visitation ne passe au-dessus de vos têtes, et que vous ne demeuriez dans votre méchanceté et ne mouriez dans vos péchés, car les méchants seront précipités en enfer, et tous ceux qui oublient Dieu. Car cet homme riche, en enfer, cria à Abraham qu'il eut pitié de lui, et qu'il envoya le pauvre Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau afin de rafraîchir sa langue, car il était tourmenté dans la flamme du feu de l'enfer. Or Abraham ne pouvait lui montrer aucune miséricorde, lui qui était dans le feu de l'enfer, ni Lazare, il ne pouvait consoler cet homme riche avec autant d'eau qu'ils auraient pu en prendre sur le bout de leurs doigts, ainsi aucun réconfort ne pouvait lui être accordé. Et bien qu'Abraham l'appela fils, c'était une parabole pour les Juifs, qui se disaient enfants d'Abraham et ne faisaient pas les œuvres d'Abraham. Ainsi cette parabole peut s'appliquer à ceux qui se disent chrétiens et ne font pas les œuvres du christianisme. Et lorsqu'ils seront en enfer, à quoi leur serviront toutes leurs richesses, leurs festins somptueux, leur fin lin et leur pourpre, eux qui ont vécu sans miséricorde ni compassion durant leur vie, et sans la crainte de Dieu, puis vont au feu de l'enfer et sont tourmentés à leur mort. Et donc, de voir le pauvre mendiant Lazare méprisé, dans le bonheur au sein d'Abraham, et un grand abîme fixé entre eux en enfer et les pauvres qui sont dans le sein d'Abraham, de sorte qu'Abraham et le mendiant ne peuvent passer vers eux en enfer, et eux ne peuvent passer vers eux au ciel. Ainsi, à quoi vous servent tous vos plaisirs, vos festins somptueux et vos vêtements, vous dont les chiens ont eu plus de compassion pour les pauvres que vous durant votre vie? Abraham vous en dit la raison. Il y a un grand abîme établi entre vous et eux, comme il a été dit, et par conséquent souvenez-vous-en durant votre vie, soyez avertis, repentez-vous, et tant que vous avez du temps, estimez-le. C'est le jour de votre visitation, vous qui vivez dans les plaisirs, l'abondance et la débauche, méprisant les pauvres, persécutant le juste et l'innocent, vous consolant de vos plaisirs et des choses de ce monde, engraissant vos cœurs comme pour un jour d'abattage, et vivant en volupté sur la terre. Et vous ne vivez ni selon la loi de Moïse, ni selon les prophètes, ni selon l'évangile de Christ Jésus, bien qu'ils vous disent tous quelle misère sera votre fin, pourtant vous ne voulez ni les écouter ni leur obéir. C'est pourquoi si vous ne voulez écouter ni l'évangile, ni la loi, ni les prophètes, alors écoutez ce que l'homme riche en enfer vous a dit dans son tourment, comme en Luc 16. Car ni Abraham ni Lazare ne pouvaient l'aider, ni le consoler, ni lui faire miséricorde, lui qui n'avait montré aucune miséricorde durant sa vie. Ainsi vous pouvez voir clairement par les propres paroles de Christ qu'il n'y a point de purgatoire ni de lieu intermédiaire, mais lorsque les méchants meurent, ils vont en enfer, et les justes sont portés par les anges dans le sein d'Abraham. Et lorsque cet homme riche n'eut plus aucun espoir de consolation en enfer de la part d'Abraham et de Lazare, il était si tourmenté qu'il pria Abraham d'envoyer quelqu'un dans la maison de son père, car il avait cinq frères, afin qu'on leur rende témoignage, de peur qu'ils ne viennent en ce lieu de tourment, à savoir l'enfer. Et Abraham dit aux riches en enfer, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Ainsi maintenant vous avez Christ à écouter, et ses apôtres, et si vous n'écoutez pas la voix de Christ qui parle du ciel, et ne suivez pas celui qui est le chemin vers Dieu, la vérité et la vie. Alors considérez, et voyez si votre voie n'est pas celle de l'homme riche vers l'enfer, vers son lieu de tourment. Mais n'est-ce pas là votre principe de dire qu'on ne peut entendre la voix de Christ tant qu'on vit ici sur la terre? Oh! Soyez donc avertis, soyez sérieux, considérez votre fin dernière, et puisque vous avez maintenant du temps, estimez-le, de peur qu'un jour vous ne disiez que vous aviez du temps, quand il sera passé. Car si vous n'estimez pas votre temps tant que vous êtes sur la terre, Christ vous dit que vous devez aller en enfer. Non, quand bien même vous appelez Christ Seigneur et dites que vous avez prêché dans les rues, si vous êtes trouvé ouvrier d'iniquité, quand bien même vous auriez prêché la mort et la résurrection de Christ, et prophétisé en son nom, pourtant si vous êtes trouvé ouvrier d'iniquité, Christ vous dira, « Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas, allez maudit dans le châtiment éternel préparé pour le diable et ses anges. » Et quand bien même vous feriez autant de prières que les pharisiens bavards, trois fois par jour, et que vous appeliez Christ Seigneur, sans faire les choses qu'il commande, il vous dit, « Vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Car le Christ vous dit que ce sont ceux qui font la volonté de son Père, qui est aux cieux, qui entrent dans le royaume de Dieu. Et donc, ne contristez point, n'éteignez point, n'attristez point l'Esprit de Dieu, qui vous est donné pour vous instruire à éviter les voies du péché et du mal, et des plaisirs qui mènent en enfer. Et ne haïssez pas la lumière dont le Christ vous a éclairé, qui brille dans vos cœurs obscurs, et qui vous donnerait la connaissance de votre état perdu, et de vos péchés, et du Christ qui vous sauve de vos péchés. Et ne marchez pas avec mépris contre l'Esprit de grâce, et ne le changez pas en débauche. Cette grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes pour les instruire et leur apporter le salut. Je dis, pour vous apprendre à vivre sobrement et pieusement, et à renoncer à toute injustice et impiété qui mènent en enfer. Et si vous haïssez la lumière, et éteignez son esprit, et marchez avec mépris contre l'Esprit de grâce, et le changez en débauche, Dieu et le Christ seront quittes envers vous, lorsque vous serez condamnés au feu de l'enfer et y rugirez. Car que pourrait Dieu faire de plus pour vous, lui qui a envoyé son Fils mourir pour vous, et a envoyé sa grâce, qui est apparue à tous les hommes pour les instruire et apporter leur salut et le vôtre, et a répandu de son esprit sur toute chair, et son Fils a éclairé tout homme qui vient au monde, et il leur dit, « Croyez en la lumière, afin que vous deveniez enfants de la lumière. » Il a envoyé ses apôtres et ses disciples dans toutes les nations, pour prêcher gratuitement l'Évangile à toute créature, comme il l'avait reçu gratuitement, et pourtant vous haïssez sa lumière, et éteignez son esprit, et lui résistez et changez sa grâce en débauche, et n'obéissez pas à son Évangile, mais vous persécutez ses messagers gratuits, et ainsi vous ne faites pas ce que Dieu et le Christ commandent, mais vous vivez dans le plaisir et la débauche, vous méprisez les pauvres, et vous persécutez les justes. Comment pouvez-vous attendre une autre fin que celle de... Et reconnaissez que Dieu et le Christ ont été justes et miséricordieux envers vous toute votre vie, avant de vous livrer aux convoitises de votre cœur, que vous avez suivi, vous qui avez résisté à sa grâce et à son esprit, et à ses serviteurs et messagers qui vous avertissaient au-dedans et au-dehors. Or, si quelqu'un s'imaginait qu'en donnant de l'argent aux prêtres, ils peuvent faire sortir vos âmes du purgatoire, ou d'un lieu intermédiaire, Abraham et le Christ ne vous disent rien de tel, mais ils vous disent que vous ne pouvez venir à Abraham, ni Abraham à vous, lorsque vous êtes morts et en enfer. Et donc, soyez avertis durant votre vie, car il n'y a pas de repentance dans la tombe, elle doit être durant votre vie, et avant que vous n'alliez à la tombe, car comme l'arbre tombe, ainsi il reste, considérez donc cela pendant que vous êtes en vie. George Fox le 7 mois, 1666, un témoignage à lire par tous les capitaines de navires et les marins, et pour voir si vous êtes dans la vraie foi dans laquelle étaient les vrais chrétiens et les saints hommes de Dieu, et si vous n'y êtes pas, alors tournez-vous vers le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'auteur et le consommateur de la foi sainte, divine et précieuse, et alors par cette foi vos cœurs pourront être purifiés, et avec vos cœurs vous pourrez croire, et avec vos bouches vous pourrez confesser pour le salut. Rome 10. Et le Christ a dit, « Quiconque est de la vérité entend sa voix », Jean 18, 37. Et maintenant quiconque n'est pas de la vérité n'entend pas sa voix, et dit qu'on ne l'entend plus de nos jours. Et ici vous pouvez voir comment le Christ appela des pêcheurs et des marins pour être ses disciples, comme suit, et comment le Christ commanda au vent, et ils lui obéirent, et comment le Seigneur Dieu tient les vents dans son poing, et suscite une tempête et fait le calme, de sorte que tous doivent le servir et le craindre. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5:19-21. Ceux qui éteignent l'esprit et méprisent les prophéties ne sont guère disposés à éprouver toutes choses, ni à retenir ce qui est bon, par G. F. Après que Jean eut été mis en prison, Jésus vint en Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu, et disant « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à l'évangile. » Marc 1, 15. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et Jésus, marchant le long de la mer de Galilée, vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Et aussitôt ils laissèrent leur filet et le suivirent. Et Jésus, allant plus loin, vit deux frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, dans une barque avec Zébédée leur père, réparant leur filet, et il les appela. Et immédiatement ils laissèrent la barque et leur père, et suivirent Jésus. Matthieu 4, 17-22, Marc 1, 19-20. Or ici, vous tous marins et pêcheurs, et tout le peuple, pouvez voir l'appel de ces quatre disciples du Christ, et quel métier ils exerçaient, pêcheurs et marins. Ceux-ci et de tels hommes étaient plus enclins à suivre Jésus alors, et maintenant encore, que les grands prêtres qui avaient les dîmes, et ceux qui ont de grands bénéfices. Mais le Christ est le même aujourd'hui qu'hier, et ainsi pour toujours, car ce ne furent pas les nombreux, les puissants et les riches, mais les pauvres qui reçurent l'Évangile. Et quand Jésus fut monté dans une barque, ses disciples le suivirent, et voici, il s'éleva sur la mer une grande tempête, au point que la barque était couverte par les vagues, mais Jésus dormait. Et ses disciples vinrent à lui et le réveillèrent, disant « Seigneur, sauve-nous, nous périssons ». Marc, au temps de la tempête, ses pêcheurs vinrent au Christ, et ainsi devraient faire tous les marins maintenant. Et il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Puis il se leva et menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Mais les hommes furent dans l'étonnement, disant « Quel est donc cet homme, à qui obéissent même les vents et la mer ? Or, vous tous marins et pêcheurs, tournez vos yeux vers le Christ, et mettez votre foi en celui à qui toute puissance au ciel et sur la terre a été donnée, il peut apaiser les orages, les tempêtes et les vagues de la mer, et la rendre calme. Et c'est donc le Christ qui vous sauve de périr, extérieurement et éternellement, comme vous pouvez le voir. Matthieu 8, 23-27, Marc 4, 36-41, Luc 8, 22-25. Car les vents et la mer obéissent au Christ par qui ils ont été faits, craignez donc Dieu et que votre foi demeure en lui, qui en est l'auteur et le consommateur. » Et Jésus se mit à enseigner au bord de la mer, et une grande foule se rassembla auprès de lui, de sorte qu'il monta dans une barque, et s'assit sur la mer, c'est-à-dire dans la barque, et toute la foule était à terre sur le rivage, comme vous pouvez le voir, Matthieu 13, 10-15, Marc 4, 1, et il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles. Or, beaucoup ne diraient-ils pas que ce n'était pas un lieu consacré pour enseigner la parole de Dieu, mais je dois vous dire que le Christ consacre et rend saint toutes choses et tous lieux. Or Pierre, qui était pêcheur, le Christ lui dit, ainsi qu'au reste de sa compagnie de pêcheurs, qu'il ferait de des pêcheurs d'hommes, et leur dit de le suivre ce qu'ils firent. Et vous pouvez voir dans Actes 2, 14-41 comment Pierre le pêcheur, par un seul sermon qu'il prêcha, convertit 3000 âmes, comme vous pouvez le voir du verset 14 au verset 41, le début et la fin de son sermon. Et maintenant, vous tous marins et pêcheurs, considérez cet appel du Christ, qui est le même aujourd'hui qu'hier, et ainsi pour toujours envers vous, si vous voulez entendre sa voix, car il se tient à la porte de vos cœurs et frappe. Et si quelqu'un entend ma voix, dit le Christ, et ouvre sa porte, c'est-à-dire celle de son cœur, en s'attachant à sa grâce, à sa lumière, à sa puissance et à son esprit, je rentrerai et je souperai avec lui, et lui avec moi. Apoc 3:21. Et ainsi les brebis du Christ entendent sa voix et le suivent, Jean 10:27. Car Pierre le pêcheur dit aux Juifs que dans les derniers jours, Dieu répandrait son esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Et sur mes serviteurs et sur mes servantes je répandrai en ces jours-là de mon esprit, et ils prophétiseront, dit le Seigneur. Et maintenant, si Dieu a répandu de son esprit sur toute chair, et que vous le contristez, l'éteignez et l'irritez, comment alors pouvez-vous prophétiser, ou avoir des songes ou des visions de Dieu, ou croire, ou recevoir le sermon de ce pécheur, qui était disciple du Christ. Et encore, dans Matthieu 14, 22-33, « Et Jésus contraigne ses disciples à monter dans une barque et à le devancer. Mais la barque était déjà au milieu de la mer, battue par les vagues, car le vent était contraire. Et à la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Et quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, disant « C'est un esprit ». Et ils poussèrent des cris de peur, mais Jésus leur parla, disant « Prenez courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et Pierre lui répondit et dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne à toi sur les eaux, et il dit « Viens. » Et quand Pierre fut descendu de la barque, il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus, mais voyant le vent impétueux, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il cria, disant « Seigneur, sauve-moi. » Et aussitôt Jésus étendit la main et le saisit, et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent cessa, Alors ceux qui étaient dans la barque l'adorèrent, disant, « En vérité, tu es le Fils de Dieu. » Maintenant ici, vous tous marins et autres, vous pouvez voir que c'est le Christ qui sauve, qui apaise les vents et les vagues impétueux, et les fait cesser, et donc vous ne devez pas douter, mais être ferme dans la foi au milieu de toutes les tempêtes et tous les orages, et voir et sentir Jésus vous saisir, comme il saisit Pierre pour vous sauver de sombrer au temps des tempêtes, lui qui apaise les vagues de la mer, lui qui est le même aujourd'hui qu'hier, et ainsi pour toujours, un rocher pour votre époque et une fondation pour votre génération, comme il l'a été. Et encore, dans Marc 6, 47-51, là vous marins pouvez voir, quand les disciples du Christ furent entrés dans la barque, ils avaient oublié de prendre du pain, et ils n'avaient avec eux dans la barque qu'un seul pain. Et le Christ les avertit, disant, « Gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Et les disciples raisonnaient entre eux, disant, « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Et Jésus, le sachant, leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous parce que vous n'avez pas de pain? Ne percevez-vous pas encore, et ne comprenez-vous pas? Avez-vous encore le cœur endurci, ayant des yeux et ne voyant pas, et ayant des oreilles et n'entendant pas? Ne vous souvenez-vous pas, lorsque je rompis les 5 pains pour 5 000, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emportés? Et ils dirent 12. Et lorsque les 7, c'est-à-dire les pains pour 4 000, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emportés? Et ils dirent 7. Et Jésus dit à ses disciples, « Comment se fait-il que vous ne compreniez pas? » Or considérez, vous marins, pêcheurs et autres qui n'êtes pas disciples du Christ, parfois, dans vos navires, vous avez connu la disette de pain. Et ici, le Christ et ses disciples n'avaient qu'un seul pain dans la barque, et le Christ leur montra qu'il en avait assez, par ses miracles précédents. Et donc ceux qui ont le Christ ont assez, ils ont celui par qui toutes choses ont été faites, celui qui donne l'accroissement, comme vous pouvez le voir par ses miracles. Et donc il est bon que chacun voie avec l'œil pur et entende avec l'oreille pure, afin qu'avec le cœur pur il perçoive et comprenne ce que le Christ a fait et fait encore, et ce qu'il est capable de faire dans toutes les nécessités, et qu'il se garde du levain d'Hérode et du levain des beaux-parleurs, qui ne sont pas des faiseurs, mais résistent au Christ qui ne dit pas seulement, mais fait la volonté de son Père, et ainsi font tous ceux qui le suivent. Marc 7, 13-21, Matt 16, 6-12. Et encore, le Christ vit deux barques au bord du lac, mais les pêcheurs en étaient sortis et lavaient leurs filets, et il monta dans l'une des barques, qui était celle de Simon, et le pria de s'éloigner un peu de la terre. Et il s'assit et enseigna le peuple depuis la barque. Or, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour la pêche. » Et Simon répondit et lui dit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit et n'avons rien pris. Néanmoins, sur ta parole, je jetterai le filet. » Et quand ils eurent jeté le filet, ils enfermèrent une grande multitude de poissons, et leur filet se rompit. Et ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Et ils vinrent et remplirent les deux barques, de sorte qu'elles commençaient à enfoncer, et quand Simon-Pierre vit cela, il se jeta aux genoux de Jésus, disant, « Éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur, ô Seigneur. » Car Pierre était saisi d'étonnement, ainsi que tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche de poissons qu'il avait faite, et il en fut de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, qui étaient associés de Simon, et Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu prendras des hommes. » Et ayant ramené leurs barques à terre, ils abandonnèrent tout et suivirent Jésus. Or ici, vous tous marins, pêcheurs et autres, vous pouvez voir que vous pouvez peiner toute la nuit à prendre des poissons extérieurs avec les filets, et ne rien prendre. Et vous qui vous appelez pêcheurs d'hommes, vous pouvez peiner toute la nuit et ne prendre aucun homme dans le filet de Dieu pour lui, si ce n'est par la puissance du Christ. Connaissez donc sa voix, obéissez-lui, et suivez-le, lui par qui toutes choses ont été faites. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Luc 11, 23, Matt 12, 30, rassemblé avec lui, c'est selon sa direction. Et ainsi, il n'y a pas un moineau qui tombe à terre, ni un poisson dans le filet d'un pêcheur, sinon par la volonté du Père. Et donc, vous tous pêcheurs et autres, devez demeurer dans la volonté de Dieu, qui donne l'accroissement et remplit les filets et les barques, qu'il en ait donc la louange et suivez-le. Et ici vous pouvez voir les pêcheurs et les marins, Jacques et Jean, Pierre et André étaient pêcheurs et marins, associés ensemble dans des barques et prédicateurs de Jésus-Christ, et ils prirent une multitude de poissons extérieurs, et une multitude d'hommes, qu'ils pêchèrent hors de la grande mer du monde, par le commandement et la puissance du Christ. Luc 5, 2, 11, Matt 8, 18. Et après que le Christ fut ressuscité, il se montra encore à ses disciples près de la mer de Tibériade, c'est ainsi qu'il se montra. Il y avait ensemble Simon-Pierre, et Thomas appelé Didyme, et Nathanaël de Cana en Galilée, et les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher », et ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et entrèrent aussitôt dans une barque, et cette nuit-là ils ne prirent rien, mais quand le matin fut venu, Jésus se tint sur le rivage, toutefois les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Alors Jésus leur dit, « Enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» Et ils lui répondirent, « Non ». Et il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc. Or, ils ne pouvaient plus le tirer, à cause de la multitude de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon Pierre entendit que c'était le Seigneur, il s'enveloppa de sa tunique de pêcheur, car il était nu, et se jeta dans la mer. Et les autres disciples vinrent dans une petite barque, car ils n'étaient pas loin de terre, mais à environ 100 yards, traînant le filet plein de poissons. Lorsqu'ils furent donc arrivés à terre, ils virent là un feu de braise, avec du poisson dessus, et du pain, et Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Et Simon Pierre monta et tira le filet à terre, plein de gros poissons, et Jésus leur dit, « Venez dîner. » Et Jésus vient alors, prend le pain et le leur donne, et de même le poisson, et c'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait après être ressuscité d'entre les morts. Jean 21:14. Et maintenant, vous tous pêcheurs, marins et autres, considérez quel genre de disciples et de ministres le Seigneur Jésus-Christ a choisi. Et vous pouvez voir que Pierre et les autres, bien qu'ils eussent été disciples de Jésus-Christ pendant quelques années, et que le Christ les eut envoyés prêcher avant qu'il fût crucifié, et après qu'il fut ressuscité, le Christ leur apparut pour la troisième fois, et Pierre avait sa tunique de pêcheur, et les disciples qui étaient pêcheurs et marins étaient associés ensemble dans une barque. Et maintenant, la tunique de pêcheur de Pierre, pensez-vous que c'était pour prêcher l'Évangile, pour rencontrer le Christ, et pour dîner avec lui? Je dis, oui, elle valait bien n'importe quel vêtement canonique, les beaux habits du pape. Et considérez, vous pêcheurs, marins et autres, que tous ces disciples avaient pêché toute la nuit, mais n'avaient rien pris. Mais quand le matin fut venu, et qu'ils virent Jésus, après qu'il fut ressuscité, sur son commandement ils jetèrent le filet et le tirèrent, plein de poissons, jusqu'au rivage. Ainsi c'est selon la volonté de Dieu et du Christ ce que chacun prend, lui qui a fait toutes choses et soutient toutes choses par sa parole et sa puissance, et qui remplit tout, et sait de quoi tous ont besoin. Car comme le Christ a dit, un moineau ne tombera pas à terre sans la volonté du Père, ainsi un poisson ne peut être pris dans le filet sans sa volonté. Et de même, vous pêcheurs, marins et autres, vous pouvez voir que Jésus, par qui toutes choses ont été faites, avait préparé pour ses pêcheurs et marins, qui étaient ses disciples, un feu, et du poisson dessus, et du pain sur la terre, lorsqu'ils avaient pêché en mer. Et donc, vous pouvez voir comment le Christ, qui soutient toutes choses et à qui toute puissance a été donnée, pourvoit ses disciples, marins et pêcheurs, car il leur donna des poissons dans la mer, et des poissons et du pain sur la terre, à ceux qu'il envoya et à qui il donna commission de prêcher, disant, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ainsi, ici vous pouvez tous voir comment les disciples du Christ furent encouragés à se confier en lui, et comment leurs esprits devaient être élevés au-dessus de toute défiance envers les choses charnelles et les vivres extérieurs. Et maintenant, vous pêcheurs, marins et tous les autres, vous pouvez voir les paroles du Christ accomplies envers ses disciples, qui leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes, car Pierre, en une seule pêche, en prit 3 000 dans le filet de Dieu, et vous pouvez lire les 2 épîtres générales de Pierre qu'il donna gratuitement. Vous pouvez aussi voir Jean le pêcheur, disciple du Christ, son évangéliste ce que la Bible appelle à tort l'évangile de Jean, son épître général, ses 2 épîtres, et son apocalypse. Venez, vous marins, pêcheurs et autres, et voyez ce que vous pouvez dire pour le Christ, qui est le même aujourd'hui courir, et ainsi pour toujours, et venez, voyons quel filet vous avez, si c'est la puissance de Dieu qui les arrachera de la mer de la méchanceté. Si les marins avaient suivi le conseil de Paul lorsqu'il dit « Messieurs, je vois que ce voyage sera dangereux et causera beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et le navire, mais aussi pour nos vies », mais ni le centurion ni le maître ne crurent les paroles de Paul, et ces paroles s'accomplirent, comme vous le voyez dans Actes 27:10-11. Mais le Seigneur préserva Paul et leur vie. Ainsi vous pouvez voir que ce n'est pas l'habileté du marin, mais la puissance du Seigneur, en laquelle tous doivent avoir foi et lui obéir, par qui ils sont sauvés et préservés. Le frère de Jésus, un apôtre du Christ, et succédant à Pierre comme chef de l'Église à Jérusalem, dans son épître générale aux 12 tribus, a dit « Voici, nous mettons des morts dans la bouche des chevaux, afin qu'ils nous obéissent et nous dirigeons tout leur corps. Voyez aussi les navires, qui, bien qu'ils soient si grands et qu'ils soient poussés par des vents violents, sont dirigés par un très petit gouvernail où le pilote veut de même la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu enflammé. Or remarquez, vous tous marins, vous tous qui bridez des chevaux, et tous les autres qui domptez d'autres créatures, veillez à pouvoir brider et dompter vos propres langues, et à tourner vos langues dans votre passion aussi vite que vous tournez vos chevaux, et aussi vite que vous tournez vos grands navires, lorsque vous les faites virer, veillez donc à pouvoir tourner vos langues aussi promptement lorsque les vents violents de la passion se lèvent, et domptez vos langues de peur que ce membre indocile ne souille vos corps tout entiers et ne mette le feu au cours de la nature. Jacques 3:6. Car pouvez-vous dompter les serpents, et toutes sortes de bêtes, d'oiseaux, et de choses de la mer, et ne pas dompter votre langue, ce membre indocile plein de poison mortel, bridez-la, dis-je, avec le frein de Dieu sa puissance, La langue du juste est comme de l'argent choisi, et la langue des sages est santé. Proverbes 10:20-12:18. La langue des sages use de la connaissance à propos, et une langue saine est un arbre de vie. Proverbes 15:2-4. Et dans la langue d'une femme vertueuse est la loi de la bonté. Proverbes 31:26. Paul, apôtre de Jésus-Christ, qui faisait des tentes avec Priscille et Aquila, et travaillait de ses mains afin de n'être à charge à personne, et non seulement il se pourvoyait lui-même, mais il aidait aussi les autres par son travail. Lui qui avait reçu son évangile, non d'un homme mais par la révélation de Jésus-Christ, qu'il prêcha gratuitement, comme il l'avait reçu gratuitement du Christ après que le Christ fut ressuscité, car le Christ avait donné son commandement à ses 12 disciples avant d'être crucifié, vous avez reçu gratuit. Et maintenant, considérez Matthieu, qui fut appelé hors de son péage, et Luc, qui était médecin, et Jean le pêcheur, et Pierre, et les autres qui étaient disciples du Christ, n'ont-ils pas donné tous leurs évangélistes et épîtres gratuitement, comme ils avaient prêché gratuitement? Et Paul, l'apôtre du Christ, qui était faiseur de tentes, ne dit-il pas des Juifs? 5 fois j'ai reçu 40 coups, 3 fois j'ai été battu de verges, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé une nuit et un jour dans l'abîme, souvent en voyage, en péril sur les fleuves, en péril de brigands, en péril de la part de mes compatriotes, en péril de la part des païens, en péril dans la ville, en péril dans le désert, en péril sur la mer, en péril parmi de faux frères, dans le travail. Comme vous pouvez le voir en 2 Cor 11:24-27. Voilà, vous le voyez, la condition de Paul, apôtre de Jésus-Christ, qui faisait des tentes, outre tous ses emprisonnements. Or cet apôtre ne prêchait-il pas gratuitement, lui qui disait qu'il travaillait de ses mains, afin d'être un exemple pour d'autres qui le suivraient. Ainsi vous pouvez voir qu'il ne s'asseyait pas sans rien faire tout en touchant un grand salaire, et n'a-t-il pas donné toutes ses épîtres gratuitement, n'a-t-il pas donné gratuitement son épître aux Romains, ses 2 épîtres aux Corinthiens, son épître aux Galates, son épître aux Éphésiens, son épître aux Philippiens, son épître aux Colossiens, et ses 2 épîtres aux Thessaloniciens. N'a-t-il pas dit, « Je vous adjure par le Seigneur que cette épître soit lue à tous les saints frères, comme en 1 Thessaloniciens 5:27. » Et les 2 épîtres de Paul à Timothée, et 1 épître à Tite, et son épître à Philémon, et son épître aux Hébreux, et comment Dieu, en ces derniers jours, nous a parlé à la véritable Église par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait le monde. Or considérez, vous tous les saints prophètes et tous les saints hommes de Dieu n'ont-ils pas donné tous leurs livres gratuitement, d'Adam jusqu'au Christ, pour qu'ils soient lus, crus, pratiqués et accomplis? Tous les saints apôtres et tous les saints évangélistes n'ont-ils pas donné gratuitement tous leurs évangélistes appelés évangiles dans la Bible, épîtres et révélations, pour qu'ils soient lus, crus et pratiqués? Ou bien les ont-ils donnés gratuitement pour que des hommes après eux en fassent un commerce, et aient un salaire annuel pour les prêcher, eux qui les ont prophétisés et prêchés gratuitement, et les ont donnés gratuitement? L'apôtre ne dit pas « prêchez ces épîtres » mais « lisez-les » comme en Col 4:16-1:5-27. Et pareillement, le Seigneur a dit, « Vous lirez ma loi à tout Israël à leurs oreilles, » Deutéronome 31:11. Et Esaïe a dit, « Cherchez dans le livre de l'Éternel et lisez. » Et Jérémie envoya Baruch pour lire son livre au rouleau, Jer 36:4-6. Ainsi l'Ancien comme le Nouveau Testament furent donnés pour être lus et crus, et pour être obéis et accomplis, comme vous pouvez le voir en Esdras 4:18, Néhémie 3, Jer 29:19, Éphésiens 3:4-5, Matthieu 22, Luc 4:16, Marc 13:21-24-49, Jean 19:24-28-36, Actes 1:16. Or y a-t-il plus d'argent gagné par une seule chose que par la prédication des Écritures, et avec elle de quelques auteurs anciens? Qu'on en fasse le compte dans toutes les nations de la chrétienté, et qu'on voit à combien s'élève leur revenu chaque année pour ceux qui n'obéissent pas aux doctrines du Christ, lui qui a dit « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, ni ne suivent l'exemple de l'apôtre Paul, gardez l'évangile sans frais. » Et l'apôtre dit, 1 Timothée 1:19, où il exhorte Timothée à retenir la foi et une bonne conscience que quelques-uns ayant rejeté, ont fait naufrage quant à la foi. Or considérez ceci, vous marins et autres, quand vos navires font naufrage, en quel état êtes-vous? Vous êtes mis en pièces, vous êtes brisés, et souvent en mer, de sorte que vous êtes dans une grande détresse. Et quand vous avez fait naufrage quant à la foi et à une bonne conscience, alors où êtes-vous, sinon brisés dans la mer du monde, et les vagues du monde passent au-dessus de vos têtes, de sorte que vous n'avez point de victoire? Considérez donc l'état de tout le monde, de ceux qui disent n'avoir pas la victoire en deçà de la tombe, et de ceux qui doivent avoir un purgatoire quand ils sont morts. N'ont-ils pas fait naufrage quant à la foi et à une bonne conscience, et ne sont-ils pas brisés dans le monde, la mer? N'ont-ils ni foi ni victoire hors d'elle et sur elle de ce côté-ci de la tombe, alors que l'apôtre a dit, « La sainte et précieuse foi divine, dont Jésus-Christ est l'auteur et le consommateur, purifie leur cœur et par elle ils sont justifiés, et en elle ils plaisent à Dieu, cette foi est leur victoire par laquelle ils ont accès à Dieu, au-dessus du monde et hors de sa mer. » Dans Gère 16, vous pouvez voir comment, lorsque les Juifs transgressèrent la loi de Dieu et devinrent pires que leurs pères, ils étaient alors comme dans une mer. Car voici, j'enverrai chercher beaucoup de pêcheurs, dit le Seigneur, et ils les pêcheront, et j'enverrai chercher beaucoup de chasseurs, et ils les chasseront de toute montagne, de toute colline, et des trous des rochers. Ainsi, ici vous pouvez voir que les hommes sont appelés poissons, et les hommes sont appelés pêcheurs, et alors considérez, où est le poisson, et où est la mer? La mer n'est-elle pas le monde qui demeure dans la transgression et la rébellion contre l'Esprit de Dieu? Et ceux qui font naufrage quant à la foi et à une bonne conscience, ne sont-ils pas en elle? Gère 16:16. Mais dit le prophète, tu es à savoir, Seigneur Dieu, trop pur pour voir le mal, tu ne peux regarder l'iniquité, pourquoi regardes-tu ceux qui agissent perfidement, et te tais-tu quand le méchant dévore l'homme plus juste que lui, et fait des hommes comme les poissons de la mer, comme les reptiles qui n'ont point de chef sur eux. Ils les prennent tous à l'hameçon, ils les attrapent dans leurs filets et les rassemblent dans leurs seines, c'est pourquoi ils se réjouissent et sont dans l'allégresse, c'est pourquoi ils sacrifient à leurs filets et brûlent de l'encens à leurs seines, parce que par eux leur part est grâce et leur nourriture abondante. Voici la pêche des méchants et le sacrifice des méchants, qu'il ne faut pas suivre. Dans Jonas 2, vous pouvez voir la prière de Jonas et la fermeté de la foi qu'il avait lorsqu'il pria le Seigneur Dieu du ventre du poisson. Jonas 2 en entier. Vous pouvez voir la cause pour laquelle Jonas fut jeté à la mer, c'était sa désobéissance. Car lorsque le Seigneur lui commanda d'aller à Ninive pour lui prêcher la repentance, il s'enfuit, alla à Joppé, trouva un navire, en paya le passage, y descendit et partit de la vers Tarsis, loin de la présence du Seigneur. Mais le Seigneur fit souffler un grand vent sur la mer, et il y eut une violente tempête sur la mer, de sorte que le navire semblait devoir se briser. Alors les marins eurent peur et tirèrent au sort, et le sort. Or, vous tous marins, navigateurs, pêcheurs et autres, dont la foi ne demeure pas en Dieu et en Jésus-Christ, l'auteur de cette foi, lorsque vous avez des tempêtes, de grands vents et des orages sur la mer, ne dites-vous pas alors qu'une sorcière ou des gens à mauvaise langue ont ensorcelé votre navire et levé ce vent, ou qu'une personne malveillante a suscité cette tempête et cet orage. Que les professants de la Nouvelle-Angleterre voient s'ils ne sont pas coupables de cela, et s'ils n'ont pas parfois jeté à la mer quelques pauvres gens simples, sous prétexte qu'il y était sorcier. Que donc eux et vous, qui soutenez de telles choses et y croyez, voyez si vous n'êtes pas vous-même dans la désobéissance à la puissance, à l'esprit et à la foi de Dieu, et dans le péché de sorcellerie. Car vous pouvez voir que c'est le Seigneur qui envoya le vent et suscita cette violente tempête sur la mer, et non vos sorcières ou vos gens à mauvaise langue, comme vous l'imaginez vainement, ainsi que vous pouvez le voir en Jonas 1, 4. Car si vous étiez dans la vraie foi salvatrice, dont Jésus-Christ est l'auteur, cette foi vous donne la victoire sur le diable, le chef de toutes vos sorcières, et vous donne accès à Dieu, qui fait la tempête et fait le calme. Car voici, celui qui a formé les montagnes et créé les vents, remarquez, les vents, et qui déclare à l'homme quelle est sa pensée, c'est le Seigneur, celui qui a créé les vents, et non vos sorcières. Amos 4, 13. C'est le Seigneur qui pose les poutres de ses chambres dans les eaux, qui fait des nuées ses chars, qui marche sur les ailes des vents. Psaume 104, 3. Le Seigneur commande et suscite le vent de tempête qui soulève ses vagues, et non vos sorcières ni vos gens à mauvaise langue. David a dit, ceux qui descendent sur la mer dans des navires, qui font commerce sur les grandes eaux, cela voit les œuvres du Seigneur et ses merveilles dans l'abîme, car il commande et fait lever le vent tempétueux qui soulève ses vagues. Ils montent jusqu'aux cieux, ils redescendent dans les profondeurs. Leurs âmes se font à cause de la détresse, ils vont çà et là, chancellent comme un homme ivre et sont à bout de ressources. Alors ils crient au Seigneur dans leur détresse et il les fait sortir de leurs angoisses. Ils changent la tempête en calme et les vagues s'apaisent, alors ils se réjouissent parce qu'elles sont tranquilles. Ainsi il les conduit au port qu'ils désiraient. Que les hommes louent le Seigneur pour sa bonté et pour ses œuvres merveilleuses envers les enfants des hommes. Psaume 107, 23-31. Vous pouvez donc voir que c'est le Seigneur qui commande et fait lever les vents et les tempêtes, puis les apaise de nouveau, et non les sorcières ni les gens à la langue mauvaise, et c'est lui qui conduit les hommes au port qu'ils désirent, tant au dehors qu'au dedans. Encore David a dit, il, c'est-à-dire le Seigneur, fait monter les vapeurs des extrémités de la terre, il fait les éclairs pour la pluie, il fait sortir le vent de ses trésors. Psaume 135, 7. Maintenant remarquez, vous tous marins, quand vous avez un vent qui soulève une tempête sur la mer, le Seigneur la fait sortir de ses trésors. Mais les désobéissants et les rebelles à la puissance, à l'esprit et à la foi de Dieu, ennemis de sa vérité et de son peuple, disent lorsqu'une tempête ou un vent se lève sur la mer, qu'une sorcière ou quelque langue mauvaise l'a suscité, et ceux-là se sont égarés loin de la vraie foi dans laquelle était David, lui qui dit, « Tout ce que le Seigneur veut, il le fait dans les cieux, sur la terre, dans la mer et dans tous les abîmes. » Psaume 135, 6. « Et Dieu fait souffler les vents et couler les eaux. » Psaume 147, 18. Et David a dit, le feu, la pluie, la neige, les eaux et les vents accomplissent la parole de Dieu. Psaume 148, 8. Or, si les sorcières font lever les tempêtes et les vents, alors les vents et les tempêtes doivent accomplir les paroles de vos sorcières et de vos gens à la langue mauvaise. Mais les tempêtes et les vents accomplissent la parole de Dieu. Et c'est lui qui fait lever une tempête ou un vent, lui qui marche sur les ailes du vent. Et vos sorcières ne peuvent pas entrer dans les trésors de Dieu pour y prendre son vent, car elles sont hors de son pouvoir. N'est-ce pas que certains de vos marins sans foi, et vous qui pensez ainsi, avez prétendu acheter des vents? Oh, quelles ténèbres et quelle ignorance, et quelle honte pour la chrétienté! Vous ressemblez à des nuées et à des vents sans pluie, à des puits sans eau, et à des arbres sans fruits, comme vous pouvez le voir en Proverbe 25:14 et dans Jude. Qui a ramassé les vents dans son poing, qui a lié les eaux dans son vêtement, qui a établi toutes les extrémités de la terre, quel est son nom, et quel est le nom de son fils si tu le sais, Proverbe 34. Et toi qui, avec ton esprit ténébreux, imagine que les sorcières peuvent aller chercher ou arracher le vent du poing de Dieu. Oh, abominable! Il s'en faut de peu que le Seigneur ne laisse son vent fondre sur vous et ne suscite une tempête contre vous, vous qui vous êtes égarés loin de la foi des saints hommes de Dieu, car Christ commande au vent et ils lui obéissent. Luc 8, 25. Ou lisez-vous dans toutes les Écritures que les sorcières aient soulevé les vents, ou que des marins soient allés leur acheter des vents. Le chapitre et le verset, soit parmi le peuple de Dieu, soit parmi les païens, et si vous ne le pouvez pas fermer la bouche, et ayez honte de telles pratiques qui déshonorent la chrétienté étant contraires à la foi, à la loi et à l'Évangile, et tournez-vous vers le Seigneur qui marche sur les ailes du vent, qui tient les vents dans son poing, et peut les laisser s'élancer en rafale pour épouvanter les méchants. Mais les justes vivent par la foi en Dieu et en Christ qui en est l'auteur, lui qui change la tempête en calme, qui comment. Les justes savent que les vents tempétueux obéissent et accomplissent la parole de Dieu. Ainsi les justes peuvent louer le Seigneur qui a créé les vents, et toutes choses dans le ciel et sur la terre, et dans la mer, et qui renouvelle l'homme par Christ à son image, et lui donne la domination sur toutes choses, louange et gloire, honneur et action de grâce soit au Seigneur, qui est au-dessus de tout, d'éternité en éternité. Tous les fidèles savent que, pas un moineau ne tombera à terre sans la volonté du Père, à plus forte raison un homme, qui a plus de valeur que beaucoup de moineaux. Ne soyez donc pas sans foi, mais croyez en Christ, la lumière qui commande au vent et aux tempêtes, par qui toutes choses ont été faites et sont soutenues par sa parole et sa puissance, Hébreux 2:3, la loi de ta bouche vaut mieux pour moi que des milliers de pièces d'or et d'argent. Psa 119, 72. George Fox Swarthmore dans le Lancashire, le 28 jour du 8 mois, 1676. Sur la manière dont le monde est appelé la mer. Et Dieu desséchera la mer de Babylone et tarira ses sources, car Dieu les a fait venir comme une mer sur les Juifs, lorsqu'ils ont transgressé sa loi et se sont éloignés du Seigneur, leur rocher et leur salut. Et encore il est dit, la mer viendra sur Babylone, et elle sera couverte par la multitude de ses vagues. Ainsi, lorsque les Mèdes et les Perses vinrent sur Babylone, alors la mer passa sur eux, et les Juifs eurent leur liberté. Jer 51-42. Ainsi Babylone spirituelle est la mer des prostituées, elle est assise sur les eaux, qui sont des nations, des peuples et des langues, mais Dieu desséchera ces eaux qui ont débordé depuis les jours des apôtres, elle qui a persécuté le peuple de Dieu. Et de sa mer se sont élevées les grandes tempêtes de la persécution, et la bête qui est montée hors de la mer, avec ses tempêtes de persécution. Et c'est la puissance des ténèbres qui tient le peuple dans l'Égypte spirituelle, Sodome et Babylone, dans cette mer. Mais dans le royaume paisible de Christ, et sur sa montagne sainte, le loup habitera avec l'agneau, et le léopard se couchera avec le chevreau, et le veau et le jeune lion, et la bête grasse ensemble, et un petit enfant les conduira. Et la vache et l'ours pétront, leurs petits se coucheront ensemble, et le lion mangera de la paille comme le bœuf. L'enfant à la mamelle jouera sur le trou de l'aspic, et l'enfant sevré mettra sa main sur le repère du basilic. Ils ne feront ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance du Seigneur, comme les eaux couvrent la mer. Et en ce jour il y aura une racine d'Isaïe, qui se dressera comme un étendard pour les nations la rechercheront, et son repos sera glorieux. Et c'est ce Christ qui dresse son étendard pour les nations, et rassemblera les bannis d'Israël, et réunira les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. Ainsi il les rassemble par sa puissance, son esprit et sa lumière, et son étendard n'est pas dressé seulement pour les Juifs ou pour une seule nation, mais pour toutes les nations en général, lui qui éclaire tout homme venant dans le monde, afin que par sa lumière il puisse le voir, ainsi que son étendard, Christ, l'homme céleste et spirituel. Ainsi le rassemblement de toutes les nations est vers lui, par sa lumière céleste dont il les éclaire. Et le Seigneur détruira entièrement la langue de la mer d'Égypte, et par son vent puissant, il agitera sa main sur le fleuve, et le frappera en sept courants, dans toute sa perfection, et les hommes passeront à pied sec. Isaïe 11:15. Et le Seigneur détruira, sur cette montagne, la face du voile qui couvre tous les peuples, et la couverture étendue sur toutes les nations. Notez, la face de la couverture sur toutes les nations, et non sur une seule nation, afin que tous les peuples puissent voir le salut de Dieu, par la lumière qui vient de Christ leur Sauveur, et s'ils n'y croient pas, cela sera leur condamnation. Et cette couverture doit être ôtée de dessus tous les peuples avant que la connaissance du Seigneur couvre la terre, comme les eaux couvrent la mer. Car la bête tenait son pouvoir du dragon, et la prostituée s'est égarée loin de Christ, la vérité, et l'Égypte selon l'esprit, et les Égyptiens spirituels diront, qui est Dieu ou son fils la lumière pour qu'il lui obéisse. Comme l'ancien Égyptien. Et Christ a été crucifié dans la Sodome et l'Égypte spirituelle. Ainsi, ici les Juifs, les scribes, les pharisiens et les grands prêtres, qui ont crucifié Christ hors des portes de Jérusalem, sont appelés l'Égypte spirituelle et Sodome, eux qui étaient les plus grands docteurs en profession du monde. Mais Christ est l'étendard dressé pour les nations, lui qui apaise la mer de Babylone la mystérieuse. Après que Babylone est tombée et que les mers ont été desséchées, alors on voit le nouveau ciel et la nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et alors il n'y avait plus de mer. Ainsi, lorsque les premiers cieux et la première terre ont disparu, alors on voit la nouvelle terre et les nouveaux cieux, et ici l'on voit la Sainte Cité, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse pour son époux, Christ. Et ici l'on voit le premier et le dernier, leur époux, Christ, et les noces de l'agneau sont venues. Et la force des nations viendra à sa lumière, et l'abondance de la mer se convertira à Christ. Isaïe 63:5. Ainsi voici l'abondance du monde qui est appelée la mer, qui se convertira à Christ Jésus, car les gentils sont les nations, et les gentils viendront à la lumière de Christ, la mer c'est le monde, car les nations et les langues sont des eaux. La mer a dit, la sagesse n'est pas en moi, Job 28. Or la sagesse qui est pure vient d'au-dessus de la mer, et ceux qui craignent Dieu la reçoivent. Et il passera par la mer avec affliction, il frappera les vagues de la mer, et tous les abîmes des fleuves seront desséchés, l'orgueil de la Syrie sera abattu, et le sceptre de l'Égypte disparaîtra. Et le sceptre de Christ sera établi, son sceptre est un sceptre de justice. Zec 10 11. Ainsi parle le Seigneur qui fraye un chemin dans la mer et un sentier dans les eaux puissants, afin que son peuple puisse passer, gloire à son nom à jamais. Isaïe 43. Et le Seigneur a dit, quand je suis venu, n'y avait-il point d'homme, quand j'ai appelé, n'y avait-il personne pour répondre. Ma main est-elle raccourcie au point que je ne puisse racheter, ou n'ai-je pas de puissance pour délivrer, voici par ma réprimande je dessèche la mer. Et ici l'on voit la grande puissance de Dieu et de Christ. Isaïe 52. Les méchants sont comparés à une mer agitée, qui ne peut se calmer, dont les eaux rejettent de la boue et de la fange, leurs eaux sont impures. Isaïe 57 20. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Isaïe 1 57 21. Car ils rugissent toujours, se vautrent et font du bruit. Et les gens cruels qui n'ont point de miséricorde, leur voix rugit comme une mer, comme en Jer 6 23. Cette mer, ce peuple cruel et sans miséricorde, semblable à une mer mugissante, devait déferler sur les Juifs pour avoir désobéi au Seigneur. Et c'est pourquoi tous les peuples doivent croire en la lumière dont Christ vous a éclairé, et marcher dans la lumière, afin que vous voyiez Christ le rocher et que vous bâtissiez sur lui, qui est sûr par tous les temps. Et Christ écrasera la tête du serpent, car le Seigneur, par son glaive dur, grand et fort, châtiera le Léviathan, le serpent fuyard, même Léviathan, le serpent tortueux, qui rend le monde hommes et femmes tortueux. Et il tuera le dragon qui est dans la mer, notez, dans la mer, car son habitation est dans les méchants comme dans une mer mugissante, et il plaide pour lui et pour son péché jusqu'à la tombe, et non pour Christ qui lui écrase la tête, et pour le Seigneur qui le détruit par sa grande épée. Mais ceux qui plaident pour Christ peuvent chanter au Seigneur le chant de sa vigne, car le Seigneur la garde, et il l'arrosera à chaque instant de peur qu'on ne lui fasse du mal. Je la garderai nuit et jour, dit le Seigneur, gloire à son nom à jamais, lui qui est le gardien de son peuple, et cela, nous qui sommes sa vigne, nous en rendons témoignage, comme en Ésaïe 27, 2-3. George Fox retour à l'index de la doctrine livre de Doctrine 5. Suite, l'objectif de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.